Alors bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
J'espère que les vacances sont bien passées, les fêtes aussi. J'ai prié pour vous, vous avez prié pour moi. Bon, j'enverrai un texto la prochaine fois. Alors, cette semaine, il y a eu deux événements majeurs. Bien sûr, on a perdu le Rav Ovadia Yosef. C'est une très très grande perte pour Israël. On va dédier le cours pour lui avec d'autres personnes. On espère que Hachem va continuer à nous protéger, comme on avait le scout d'avoir cette sadique avec nous. Le deuxième événement, c'est que j'ai marié mon fils dimanche dernier. Donc, Hachem, que ce scout, il soit un scout pour tous vos enfants, que vous trouvez chacun un bon zibouk béchar, tova mustafat. Donc, on dédie le cours, Leilou Nishmat, Rav Ovadia Yosef, Ben Jean Giam, Zat Hachem, pour Rafa et aussi pour Nouri Arazi Ben Rachel.
Doris Batelisa.
Batelisa.
Verina Batelisa.
Verina Batelisa.
Si on a quelqu'un.
Avram Ben.
Esmeralda.
Yaakov El Rachel. Kachem élève dans les Shamot parmi les tzadikim d'Israël. Alors le thème qui a été choisi aujourd'hui, c'est un thème très important. Et c'est bien qu'on évoque la notion du Nisayon et de l'épreuve. Parce que ça va être le sujet de la semaine prochaine dans la paracha, et aussi parce que on vient de passer maintenant une épreuve très très dure. On ne sait pas exactement comment ça va se dérouler, mais c'est important de comprendre que à chaque fois qu'on parle d'une épreuve, à chaque fois qu'on essaie de comprendre comment fonctionne l'épreuve et qu'est-ce qu'elle apporte l'épreuve, puisque l'épreuve elle est plurielle. Quelqu'un il peut avoir une épreuve émotionnelle, quelqu'un il peut avoir une épreuve intellectuelle, quelqu'un il peut avoir une épreuve physique. Des fois, c'est une épreuve qui inclut les trois niveaux en même temps. On a des épreuves quand on est jeune, des épreuves quand on est vieux. Ouais, on a des épreuves avec les enfants, on a des épreuves avec le conjoint. Il y a tellement de facettes dans l'épreuve, il y a tellement de différences dans l'épreuve qu'on voit bien que cette épreuve, cette notion d'épreuve, elle fait partie du Ham Israël, elle fait partie du peuple d'Israël, elle fait partie de l'histoire d'Israël, que ce soit des épreuves individuelles ou des épreuves qui soient collectives. Alors pour comprendre cette notion-là, comme on a toujours l'habitude de le faire, puisqu'on sait qu'Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde, et que tout ce qu'on a besoin de comprendre dans le monde, il a écrit dans la Torah. Et l'exemple de l'épreuve le plus authentique qui existe dans la Torah, c'est l'épreuve de l'Akeda. C'est-à-dire quand Hachem, il a demandé à Abraham Avinu d'offrir son fils en sacrifice. Enfin, en tout cas, il lui a demandé de le monter sur le Mizbéach, et Abraham, il a compris qu'il fallait l'offrir en sacrifice. Maintenant, nous, encore une fois, on va regarder cet événement, on va l'analyser, mais après, on va tirer de cet événement. Chacun, il va reconnaître à l'intérieur ce qu'il a peut-être vécu et ce qu'il risque de vivre. Mais encore une fois, de comprendre que l'épreuve, elle est toujours un double facette. Parce qu'on n'est jamais la même personne après une épreuve. Donc si on n'est pas la même personne après une épreuve, c'est que cette épreuve, elle était nécessaire. Ouais, souvent, j'ai dit ce jeu de mots qu'on appelle l'épreuve de la vie. L'épreuve de la vie, ça veut dire que c'est l'épreuve qui a fait que j'étais en vie. Et l'épreuve aussi, on peut l'écrire au pluriel, l'épreuve de la vie. Ce sont les preuves, ce sont ça les preuves de la vie. Ça veut dire que quelqu'un qui est éprouvé, c'est ça qui prouve qu'il est en vie. C'est ça l'épreuve de la vie. C'est-à-dire que comment quelqu'un est en vie? Parce qu'il est éprouvé. Le jour où quelqu'un n'est plus éprouvé, peut-être qu'il n'est plus en vie. Comme dans un couple, il y a des épreuves. Les gens me disent, oui, c'est difficile. J'ai dit, mais un couple, il y a des tensions, il y a des changements. L'homme, il change, la femme, elle change. Alors, il y a des épreuves. Mais on n'est pas obligé de penser des épreuves dans le sens des épreuves et des souffrances et des malheurs. Non, on peut penser des épreuves, c'est-à-dire des occasions de grandir, des occasions de se confronter, comme des épreuves avec les enfants. Maintenant, il est malade, il est petit, il tousse, le bébé. Maintenant, il a 15 ans, il a d'autres épreuves, on a d'autres épreuves. Ouais, maintenant, c'est le mariage, il y a d'autres épreuves. Maintenant, après le mariage, il y a encore d'autres épreuves. Pourquoi à chaque fois, il y a des épreuves différentes? Alors après, c'est le regard qu'on en a. C'est-à-dire d'arriver à comprendre que si nous, on a vraiment cette émouna, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Donc on doit essayer de trouver à l'intérieur de l'épreuve comment cette épreuve-là, elle va me faire grandir, comment elle va me faire évoluer. Maintenant, si je le prends bien, bah, ça va être un tremplin. Si je le prends mal, ça va être un piège. Et toute la vie, c'est comme ça. Oui, dans le business, il y aura des épreuves de faire un travail honnête, un travail malhonnête. Après, l'autre, il est en prison, il ne comprend pas. Pourquoi? Je ne comprends pas, je donne le maaser. C'était une épreuve. Une épreuve, on t'a proposé un traloïde. Oui, tu le fous, tu ne le fais pas. Toi, tu es marié, tu ne dois pas rigoler avec la voisine, c'est comme ça. Ah, mais c'est en tout bien, tout honneur. Tu ne peux pas. Parce qu'Hachem, il a fait exprès de t'envoyer une femme jalouse. Et toi, tu as un esprit léger. Vous êtes pile, vous êtes exactement les allumettes et l'essence. Donc toi, ton épreuve, ça va être de l'énerver en parlant avec des femmes. Et elle, son épreuve, ça va être d'avoir confiance, alors qu'au fond, elle n'a pas confiance. Peut-être qu'elle n'a pas confiance parce que son père a fait des bêtises, elle, ouais. Donc chacun, il vient avec un terrain de l'épreuve, mais il doit comprendre que cette épreuve-là, elle existe, elle est réelle, elle est concrète, et elle est nécessaire. Donc si on comprend ça, donc ça veut dire que Hakadosh Baruch Hu lui-même, il n'a pas besoin de l'épreuve, c'est nous qui avons besoin de l'épreuve. Donc Hachem n'est pas là pour nous éprouver, pour que nous soyons capables de lui montrer, ouais, à lui, parce que lui, il sait très bien ce qu'on est, il sait très bien ce qu'on vaut. C'est nous qui avons besoin de l'épreuve pour savoir ce que l'on vaut, et on a besoin de l'épreuve pour devenir ce que l'on vaut. Pourquoi ? Parce que c'est le gros problème en vérité, c'est qu'on est tous des tzadikim, on est tous des gens extraordinaires, on est tous des gens hyper matures, on est tous des héros, on est tous des gens grands, mais potentiels. Alors la vraie question, c'est quand est-ce que ce potentiel, il va se réaliser ? De quelle manière il va se réaliser ? Comme une femme, elle a un ventre comme ça, elle est au 9e mois, on sait qu'elle va accoucher, tout le monde sait qu'elle va accoucher. C'est rare que quelqu'un il reste enceinte pendant 2 ans, 6 ans, ou là 9 ans, ça c'est autre chose, ça s'appelle la bière, ça s'appelle la daffina, chez les hommes ça plutôt, oui. Mais chez une femme, on sait qu'elle va accoucher, tout le monde sait qu'elle va accoucher, mais comment elle va accoucher ? On prie les dakala, que ça soit un accouchement facile. Est-ce que ça va être un accouchement facile ? Est-ce que ça va être un accouchement avec péridurale ? Est-ce que ça va être un accouchement avec césarienne ? Est-ce qu'il va y aller forceps ? Est-ce qu'il va se présenter bien ? Va mal se présenter ? Eh bien l'accouchement c'est une épreuve. L'accouchement c'est l'épreuve. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'on va passer par des épreuves. Tout le monde. Est-ce que ça va bien se passer ou non ? Et pourtant tout le monde, qui n'est pas content d'avoir un bébé ? Malgré la douleur, malgré la difficulté. Qui c'est qui n'a pas eu peur avant l'accouchement ? Tout le monde a peur et pourtant on est content. Donc ça veut dire qu'il y aura la grossesse, c'est la mise en place de l'épreuve. Il y aura l'accouchement, ouais, c'est l'épreuve. Après, il y aura l'état après l'épreuve. C'est-à-dire qu'après un accouchement, on n'est plus la même personne. Déjà, t'es une maman. Déjà, t'es un papa. Ouais, on n'est plus la même personne parce qu'il y a quelque chose qui a été vécu. Maintenant, est-ce que l'épreuve, elle s'est bien passée, mal passée ? Est-ce que l'accouchement s'est bien passé, mal passé ? Ça va dépendre de chacun. L'autre, il va dire, j'ai eu un accouchement extraordinaire. Pourtant, il est resté 10 heures sur la table de travail, ouais. Et l'autre, elle va dire, c'était l'horreur. Et j'ai crevé de douleur, et j'avais mal avant d'avoir mal, et je voulais même pas aller, et je regrette d'être tombé enceinte. Tu vois, pourtant c'est une joie. Pourtant c'est un bébé qui est né. Alors pourquoi c'est comme ça ? Maintenant si quelqu'un il va te dire, bon mais ça concerne les femmes enceintes. Mais un homme, par exemple, qui est très orgueilleux, ouais, et qui a des problèmes de couple à cause de son orgueil, il va falloir qu'il accouche un homme qui est modeste. Sinon il va divorcer. Donc tu vois qu'il va accoucher une personne. Il va aussi accoucher un enfant, lui. Il va accoucher la personne qui doit être. Nous, on a un enfant, on veut qu'il devienne un homme. Maintenant, on voit qu'il a une grande potentialité. Mais il faut qu'on l'aide à accoucher le bon jeune homme qui est en lui. Parce que sinon, c'est le voyou qui va naître. Donc, en fin de compte, toute la vie, c'est quoi ? La vie, c'est une série d'accouchements. Maintenant, il y a des gens qui sont malins. Ils accouchent dans la douceur. Et il y a des gens, non. Il faut qu'ils accouchent dans la douleur. Il va passer son bac, mais il va crever. Il va passer son permis, il va mourir. Il va se marier, mais il va nous saouler. 74, je suis d'ouvrir. Ouais. Celui-là, il va gagner la parnassa, mais quel travail, mais quel travail. Au lieu de faire 3 ans d'études, il a fait 30 ans de dépôt de bilan, un après l'autre. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas fait les choses normalement ? C'est un accouchement. Alors la question, c'est ça. C'est savoir, est-ce que la personne, elle est capable d'appréhender l'épreuve ? Et après, est-ce que la personne, elle est capable d'utiliser l'épreuve ? Et non pas de subir l'épreuve. C'est pour ça que le Ramban, il explique très bien. Ici, quand Akadosh Baruch Hu, il a mis à l'épreuve Avram Avinu, il dit le Ramban, « Ikare nisayon mitzad amenuse » On l'appelle un nisayon, une épreuve, mitzad amenuse, c'est-à-dire par rapport à celui qui subit l'épreuve. « Aval amenase » celui qui est le menacé, qui met en place l'épreuve, c'est-à-dire que c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu, Itbarach, il a ordonné la chose pour faire sortir la chose du potentiel au réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, encore une fois, il n'a pas besoin de l'épreuve. Si c'est pour savoir ce que la personne, elle vaut, il sait ce qu'elle vaut. C'est l'homme qui a besoin de l'épreuve. Maintenant, comment on appelle celui qui met en place l'épreuve ? À menacer. Parce que l'épreuve, en hébreu, c'est nisayon. Le nisayon, d'accord ? Comment on dit mettre à l'épreuve ? L'enasot. Comment on appelle celui qui met à l'épreuve ? À menacer. Menacer, ça ressemble à menace. Ça veut dire que l'épreuve, elle peut être vécue comme une menace. Quand c'est une grande épreuve, c'est une épreuve maximum, ce qu'on appelle max la menace, c'est un haut niveau de... Bon. Alors, donc c'est quoi l'idée ? c'est que le menacé, c'est lui qui va me mettre en situation 2. Maintenant, moi aussi, quand j'oblige mon fils à dire la vérité, je deviens le menacé. Vous suivez ou non? Quand je dis, si tu ne travailles pas, tu vas pas en vacances. Je deviens le menacé, je crée une épreuve. Maintenant, quand ma femme me dit, écoute, dis-moi la vérité, sinon je ne reviens pas à la maison, elle me crée, elle me menace. C'est-à-dire, elle me met en situation. Mais qui c'est qui vit l'épreuve comme une menace? Celui qui n'accepte pas de grandir. Celui qui accepte de grandir. Mais c'est extraordinaire l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il dit. Il dit, les otsi adavar minakoach et la poal. C'était fait pour sortir la chose du potentiel au réel. Ça veut dire qu'on vient tous avec des niveaux extraordinaires en potentiel. Ils sont à l'intérieur de nous. Ils ne sont pas dévoilés. Après, tout ce qu'on va rencontrer dans la vie, des petits niveaux au grand niveau, ouais, ça va être des décapsuleurs. Des décapsuleurs. Chaque élément, chaque chose. Maintenant, plus quelqu'un il va apprendre, plus quelqu'un il va grandir, plus quelqu'un il va s'affiner, plus Akadosh Baruch Hu, il va être obligé de lui envoyer un décapsuleur de potentiel qui sera affiné par rapport à ça. Celui-là, il aura des épreuves très très fines sur le comportement, sur la manière de faire. Quelqu'un maintenant, il n'est pas encore bien construit, il n'est pas bien fini, alors il va avoir des grosses épreuves. Ouais, des grosses épreuves. Voilà, tu es juif, alors on va te proposer de manger ta ref. Alors tu dis, ah, je ne sais pas si je mange du cochon ou je mange du lard. De toute façon, lard ou le cochon. Ouais. Mais si, ça y est, tu es juif, ça y est, ça suffit. Il y a déjà 6 millions de morts qui sont morts parce qu'ils sont juifs, ils ne peuvent pas manger cachère. Dans les camps de la mort, il y en a qui ont fait attention de ne pas manger ta ref, tu ne peux pas manger, manger cachère. Ah, mais c'est difficile, c'est compliqué, j'habite en Israël. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est une épreuve grossière, t'es marié, d'accord? C'est sa femme, alors arrête de mentir. Ah mais, ouais, mais si tu leur dis la vérité, c'est une épreuve grossière, vous êtes marié, vous dormez dans le même lit, vous faites des enfants, vous pouvez pas dire la vérité. Ah mais vous savez, des gens quand tu leur dis la vérité, c'est-à-dire que t'as des épreuves grossières, parce que t'es grossier. T'as des épreuves fines, parce que t'es fin. Maintenant, plus quelqu'un il va s'affiner, plus les épreuves elles vont évoluer avec lui. Et c'est normal. Quelqu'un qui fait des petites études, alors on lui demande, alors montrez-moi le pied gauche, montrez-moi le pied droit. Quelqu'un qui fait des études, on lui dit, alors dans quel type de logarithme du quatrième degré la courbe de la tangente ira dans un spectre spectral de Dardel. On dit, mais c'est compliqué, je ne comprends même pas la question. Ah, monsieur, c'est pas pour vous, c'est pas des questions pour vous, monsieur. On n'a pas les mêmes questions quand on sort de l'ENA et quand on rentre en BEP de coiffure. C'est pas les mêmes. Parce que là, il s'agit de redresser les cheveux et là, il s'agit de redresser la situation économique d'un pays. Ce n'est pas un brushing. Maintenant, toi, tu vois petit, on va te donner des petites épreuves. Toi, tu vois grand, on va te donner des grandes épreuves. Maintenant, on te donne des grandes épreuves parce que tu es grand ou alors on te donne des grandes épreuves pour que tu deviennes grand. Celui qui vient d'une grande famille, celui qui vient d'une famille éduquée, celui qui a des parents qui sont de haut niveau, on ne va pas lui donner les mêmes épreuves que quelqu'un qui vient d'une famille limite des singes. C'est normal. C'est pas une question de plus ou de moins. C'est une question de réalité. Comme quelqu'un qui est fort, on va lui faire porter des grosses charges. Et quelqu'un qui est faible, on va lui donner des petites charges. Maintenant, le bon Dieu, c'est un chamelier. Il connaît les chameaux. Il connaît ses chameaux. Il n'envoie pas des épreuves de n'importe quoi à n'importe qui. Je vois des gens, ils ont peur d'avoir certaines épreuves. Je dis la vérité, n'ayez pas peur. Il me dit pourquoi? Je dis vous n'êtes pas au niveau. Vous n'êtes pas au niveau. Parce que si déjà vous êtes mehal el Shabbat pour ne pas marcher 15 mètres, vous croyez que le bon Dieu il va vous envoyer un enfant avec une leucémie. Vous n'êtes pas capable d'assumer. Déjà, vous ne croyez pas en Dieu pour 15 mètres de marche. Vous croyez que vous allez croire en Dieu si on vous envoie une leucémie. Donc, vous allez. C'est pas la peine, Dieu ne vous éprouvera pas. Parce que vous n'avez pas le niveau d'assumer une chose pareille. C'est énorme. Hachem, il envoie à des gens qui sont capables de porter. Ah, maintenant, quelqu'un, il peut prendre bien le prendre, mal le prendre. Après, c'est un problème personnel. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que le poids, il est toujours en fonction de la personne qui peut le porter. Alors maintenant, qu'est-ce que quelqu'un y fait? Il accepte, il comprend. Quand tu vois des grands comme Rav Ovadia Yosef, ils ont porté la halakha. C'est énorme. Ils ont porté toute la loi d'Israël. Ils ont porté des questions très très graves. Encore quelqu'un m'a raconté tout à l'heure dans la voiture. Vous savez, quand il y a eu la guerre de Kippour, il y a eu beaucoup de soldats. Il y a eu 1000 soldats qui étaient disparus. Il fallait trancher la halakha. Est-ce que les femmes sont permises ou non? C'est qu'une femme, quand son mari disparaît, si on n'a pas de preuve qu'il est mort, la femme, elle peut pas se remarier. Parce que si elle se remarie et le mari revient et qu'il y a des bébés qui sont nés, ils deviennent des mamzerim. Comment on va faire? Ça s'appelle aguna. C'est des halakhot très très durs. Il y a très peu de rabbanim en Israël qui sont capables de trancher ce genre d'halakha. Lui, il y avait 1000 cas. Mais comment tu sais? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils ont perdu la mémoire? Ils sont en train de marcher dans le désert? Est-ce qu'ils ont été enlevés par les Égyptiens? Ils sont quelque part dans un camp d'internement? Comment tu vas savoir? Chacun, il a dû trancher la halakha un par un. Maintenant, ne regardez pas la complication de la halakha. Regardez les épaules qu'il faut pour prendre la décision sur ses épaules. C'est très très lourd. Et quelqu'un m'a raconté ce qui s'est passé. Il y a une journaliste en Israël, vous savez que les journalistes ne sont pas tous des religieux. Ils sont même peut-être un peu à gauche de la religion, vous voyez, très à gauche. Il y a une femme comme ça, elle voulait montrer que, genre, qu'est-ce qu'on est en train de dire à l'époque, le Rav Obadia, elle a voulu faire le... qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un foulard, elle a fait genre la religieuse, elle a dit, voilà, mon mari a disparu, et qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, le Rav, il a regardé comme ça, il a dit, vous pouvez vous remarier. Alors, vite, elle a été pour écrire dans le journal. Elle est sortie, elle a dit, mais moi, mon mari n'est même pas mort. Je me suis moqué du rab. Vous voyez que c'est un imbécile. Vous voyez que c'est un charlatan. Il m'a dit que je pouvais me remarier. Quand elle est sortie, son mari est mort, le jour même. Non. Son mari est mort le jour même. Il est mort. Maintenant, elle peut se remarier. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait où il est, son mari. Il n'est pas disparu, il est mort, il est là. Tu crois qu'on joue avec Rav Obadia? Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Tu peux te remarier. Oui, ton mari va mourir aujourd'hui, de toute façon. C'est tranquille. Voilà, le canard, il est là. Non, ça veut dire que c'est des gens, il faut comprendre de quoi on parle. C'est une montagne. C'est énorme. Oui. Alors si cette personne-là, encore une fois, ne regardez pas ce qu'elle a porté. Regardez les épaules qu'elle devait avoir pour porter. Parce qu'on vient, toi, te demander des questions, toi. C'est une question, ouais. On vient te demander à toi de supporter toute la communauté entière. On vient te demander. Donc celui à qui on demande, c'est qu'il a les épaules pour porter. Maintenant, pour avoir ses épaules, c'est pas de faire de la musculation, hein. C'est des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'heures d'études de la Torah et des millions d'heures de travail sur soi pour atteindre un niveau de tzidkout, un niveau de sainteté, un niveau de pureté, pour avoir les épaules pour porter. Parce qu'Hachem, il ne va pas donner l'avenir du Ram Israël d'entre les mains des pauvres. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'à un petit niveau ou un grand niveau, on va passer d'une étape à l'autre par les épreuves qu'on va avoir. Comment s'appelle ce passage d'une épreuve à l'autre? Ça s'appelle... le Nisayon, Minakoach et la Poal. Passer du potentiel au réel. Maintenant, on ne peut jamais savoir exactement de quoi on est capable. Il n'y a que la réalité qui peut nous le prouver. Comme quand tu fais des études. Quand tu fais des études, bah, tu passes d'une classe à une autre classe, à une autre classe, à une autre classe. Ouais. Maintenant, toi, tu t'es arrêté au bac. Toi, tu t'es arrêté 2 ans après le bac. Toi, tu t'es arrêté 10 ans après le bac. Et là, il ne s'arrête jamais. Ouais. Alors, l'autre, il croit parce qu'il n'a pas le niveau. Oh, des fois, c'est les circonstances de la vie. Des fois, parce qu'on est paresseux. Des fois, parce qu'on n'a pas envie de réfléchir. Oui, mais de toute façon, toute sa vie, on va faire des études. Maintenant, il y a des études qu'on a choisies, des études qu'on n'a pas choisies. Par exemple, nos enfants vont être des cycles d'études pour nous. Tu vas faire un doctorat d'éducation avec tes enfants. Moi, je peux vous dire, j'en ai un paquet, je peux vous dire que j'ai pas fini mon doctorat, je suis loin de finir le doctorat, oui. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, avec celui-là, il va te poser un problème avec la colère, celui-là, il va te poser un problème avec, avec la compréhension, celui-là, va te poser un problème avec la compréhension, c'est-à-dire l'intellect, celui-là, il va te poser un problème avec l'émotion. Comment tu vas faire? Chaque enfant, tu vas passer un doctorat. Et le pire, c'est que malgré leur nombre, ils sont tous différents. Maintenant, si je réfléchis qu'Hachem m'envoie des enfants différents, alors qu'ils sont tous de moi, enfin, chacun il espère, oui. Donc ça veut dire que ce sont des facettes de moi. Donc ça veut dire que moi je suis pluriel. Moi je suis pluriel personnellement. Et que de mon pluriel à moi, il y a des facettes qui doivent se dévoiler. Il y a une partie qui va se dévoiler avec cet enfant-là, une partie qui va se dévoiler avec cet enfant-là, une partie qui va se dévoiler avec cet enfant-là. Alors est-ce que moi je suis prêt à jouer le jeu du dévoilement? Est-ce que je suis prêt à regarder plus loin que l'événement de maintenant il m'a énervé, maintenant il m'a déçu, maintenant c'est pas ce que j'attendais? Est-ce que je peux sortir de ça et regarder de loin et dire, ah, j'ai compris, le bon Dieu il a un calcul. Le bon Dieu il veut que je grandisse sur la patience. Le bon Dieu il veut que je grandisse sur la rahmanout, la miséricorde. Le bon Dieu il veut que je grandisse sur la capacité de parler avec des gens que je ne supporte pas. Parce que chaque chose il va dévoiler une facette. Or, le diamant, minimum, il a 70 facettes. Ouais. 70 c'est Aïn. Aïn c'est Sod. Sod c'est le secret. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, le minimum qu'il a 70 facettes. Après, je vous dis la vérité, il y a des diamants qui ont 250 facettes. Il y a des diamants qui ont 500 facettes. Mais c'est très cher. C'est des diamants de 110 carats, 180 carats. Ça devient devenir tabose. Ouais, ça devient gros. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'à chaque fois qu'on va tailler une nouvelle facette dans le diamant, il va y avoir une nouvelle lumière qui va apparaître. Parce que chaque facette, elle renvoie une lumière différente. C'est pour ça que le diamant, plus il y a de facettes, plus il brille. Quand on parle de quelqu'un qui est brillant, vous voyez, c'est pas parce qu'il met du gel. C'est parce qu'il a, il a beaucoup de facettes. Il a des milliers de facettes. Et à chaque fois que tu le regardes d'un autre côté, tu vois encore une facette, encore une facette, encore une facette. C'est pour ça d'ailleurs que quand on perd quelqu'un, oui, on perd son père ou on perd sa mère, que Hachem vous les garde jusqu'à 120 ans, et ben on, quand on rencontre les gens et les gens nous parlent d'eux, on voit qu'il y a plein de facettes qu'on ne connaissait pas. Pourtant, on est des enfants. Ce n'est pas qu'on est des voisins ou qu'on est des étrangers. C'est nos parents et on ne les connaît pas. Oui. Eh bien, c'est pareil avec les enfants. Le professeur, il va te dire, mais vous savez que votre fils, il vous respecte beaucoup. Tu dis, ah bon, mais il me manque de respect. Il ne peut pas vous le dire à vous, parce que vous, il est en conflit frontal. Mais lui, son père, c'est son père. Sa mère, c'est sa mère. C'est incroyable. Alors qu'à la maison, j'en ai rien à faire, vous me saoulez. Allez, j'ai envie de mourir, j'ai envie de quitter cette maison. Et dehors, quoi, mais t'es fou, tu parles de mon père, mais je te tue. C'est bizarre. Ça veut dire que l'enfant, il va dévoiler des facettes chez toi, et toi, tu vas dévoiler des facettes chez lui. Et si on comprend bien, et si on croit en Dieu, si on ne croit pas que c'est compliqué, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si on croit en Dieu, ouais, alors on voit que chaque situation de la vie, elle vient pour révéler quelque chose chez moi. Ça va ? Chaque situation de la vie, avec un juif, avec un goy, avec un client, avec un voisin, avec des nerfs, avec un enfant, avec un ami, avec un coup de téléphone, avec une image qui apparaît devant toi. Chaque fois, ça vient pour dévoiler quelque chose. Et cette logique-là, ça signifie, et ça c'est très important, que la personne à l'intérieur d'elle-même, on l'a dit, elle a des milliers et des milliers de facettes. Comment ils vont sortir? Grâce à ça. C'est comme un décapsuleur de facettes. Et c'est ça l'idée. Vous imaginez maintenant le diamant, il est brut. Il n'est pas taillé. D'accord? J'avais expliqué ça une fois, j'avais lu un article sur ça, qu'un tailleur de diamants, un juif de New York, c'était le plus grand tailleur de diamants du monde. Maintenant, pour tailler les très très gros diamants, il prenait déjà un mois de réflexion pour réfléchir comment, pourquoi. Parce que le diamant, quand vous l'avez coupé en deux, c'est fini, là. Il n'y a pas la colle pour le diamant. C'est fini, on ne peut pas récupérer ça, oui. Donc, il a bien réfléchi comment il va optimiser au maximum pour que la lumière, elle puisse faire grandir ce diamant, elle puisse faire briller ce diamant. Donc, il réfléchit. Maintenant, l'idée, c'est comme ça, la pierre, elle est brute. Vous savez, un diamant, quand il est brut, ben, c'est comme un caillou, hein. Alors, vous le voyez comme ça. Et quand vous le taillez, d'un seul coup, il apparaît une facette. Après, il apparaît une autre facette. Maintenant, la facette, avant qu'on taille le diamant, où elle était cette facette? Elle était à l'intérieur. Elle était potentielle. Maintenant, il y a des millions d'angles. Tu peux tailler comme ça, 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 comme ça. Il y a des millions d'angles. Et chaque angle, il va développer une lumière différente. Chaque angle, il va amener une autre lumière. Ça veut dire que nous aussi, les orientations qu'on va faire avec les enfants, l'ambiance qu'on va créer à la maison, les échanges qu'on aura avec eux, la tendresse qu'on va leur donner, ou le stress qu'on va leur créer, ça va créer d'autres facettes. Mais on va tailler le diamant. Des fois, on le fait volontairement parce qu'on est actif dans l'éducation. Des fois, on le fait inconsciemment parce qu'on est passif. Mais même quand on est passif, c'est une forme d'éducation. Dans son couple, si on n'a pas construit son couple. Ouais. C'est une forme d'éducation de son couple. Moi, je vois plein de gens. Arabes, j'ai des problèmes, j'ai des trucs. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes dynamique dans ce couple? Est-ce que vous êtes investi dans ce couple? Est-ce que vous faites un travail ensemble? Est-ce que vous mettez en place des choses? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez un dialogue? Est-ce que vous avez un échange? Est-ce qu'il y a de la bonté? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a... Non. C'est bizarre ce raisonnement. Ouais. Comment quelqu'un y croit que la marmite, elle va se remplir s'il n'y a rien dedans? Depuis quand la maison elle est rangée si on ne fait pas le ménage? Donc ça veut dire, et ça c'est extraordinaire, ça veut dire que c'est des facettes de ma personne qui vont apparaître grâce à la rencontre que je vais faire. Maintenant que je vous roule mes avec Zivugim, Hachem il crée des rencontres. Des rencontres, ce n'est pas seulement la femme et le mari que tu épouses, c'est toutes les personnes qui seront nécessaires pour ton épanouissement spirituel, psychologique et intellectuel. Tu vas les rencontrer au fur et à mesure de ta vie. Maintenant, il y a des gens qui profitent des rencontres, ils grandissent. Il y a des gens qui ne profitent pas des rencontres. Moi, j'ai dit un million de fois, mais je le répète, la femme, elle est une occasion pour l'homme de devenir un homme. Ouais. Comme le mari, c'est une occasion pour la femme de devenir une épouse. Maintenant, les enfants, c'est une occasion pour les parents de devenir des parents. Maintenant, il y a énormément d'hommes et de femmes qui ont des enfants, mais qui ne sont pas devenus parents malgré qu'ils avaient des enfants. Parce qu'ils n'ont pas profité de la présence des enfants. Le mari, il a dit « Ah, mais moi je travaille, il ne faut pas me saouler avec l'éducation. » La femme, elle dit, ah, donne-moi mon image extérieure, c'est ça qui compte, j'ai pas peur de prendre un kilo. Et les enfants, ils ont grandi tout seuls dans une jungle. Bizarre, le foyer, une espèce de magma sans forme, comme ça, tac, tac, entre les humeurs, l'ambiance, le shit et M6. Ils sont un peu comme ça. Ils n'ont aucune forme, aucun truc, ils essaient de parler avec eux, ils ne comprennent rien, ils veulent rien, ils savent rien, ils pleurent, ils rigolent, ils stressent, ils boivent du whisky. Tu dis, ma femme, mais il n'y a pas, où sont les... Une fois, une maman, l'autre jour, elle m'a téléphoné une maman, elle m'a dit, ah, mais chérie, voilà, mon fils, on devient fou, il a 21 ans, il s'est mis avec une fille de 26 ans qui a beaucoup vécu, et je pense qu'elle a une expérience dans un domaine difficile, et donc je pense que mon fils ne raisonne plus avec ce niveau-là, mais plutôt avec ce niveau-là. Et alors, j'ai dit, mais est-ce qu'il a fait l'école juive? Elle m'a dit non. J'ai dit, mais est-ce qu'il a des valeurs? Elle m'a dit non. Mais est-ce qu'il a des principes? Il a dit non. Est-ce qu'elle a fait tel bouton? Il a dit non. Est-ce qu'il a l'éducation? Il a dit non. Je dis, mais votre enfant, c'est une savonnette, comment je vais l'attraper par où? Il n'a pas d'amis. Il n'est pas dans un milieu juif. Eux-mêmes, ils habitent à 1h30 de la synagogue. Il n'y a pas d'éducation. Le père n'est jamais là. La mère, elle est hystérique. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je dis, répétez après moi. Itgadal, vidgadal, shemera. Non, c'est-à-dire que les gens, ils sont fous. Les gens, ils sont fous. Les gens, ils sont fous. Ils font n'importe quoi, n'importe comment, et après, ils appellent le rabbin. Mais c'est pas mieux d'appeler le psychologue ou le... Moi, j'ai des copains psychologues. Il m'a dit, il m'a mis des cadavres de famille. Et on ne sait même pas par où commencer. Mais le bon Dieu, il n'a pas tout envoyé d'un seul coup. Il t'a envoyé doucement. Quand il t'a envoyé la femme, construit avec la femme. Après, il t'a donné le premier enfant, construit avec l'enfant. Après, il t'a envoyé le deuxième. Après, il t'a envoyé la maladie, construit avec la maladie. Après, il t'a envoyé le travail, construit. Après, il t'a envoyé l'entreprise et grandi avec. Après, il t'a envoyé le deuxième enfant. Tu vois, le bon Dieu, il t'a envoyé le programme petit à petit. Mais comme toi, t'as dormi, tu te retrouves avec un cumul. Comment je vais faire? Je deviens fou. Au travail, ça marche pas. Je rentre à la maison, elle me dit, les enfants, ils sont cinglés. Ma femme, elle est dépressive. Je dis, on a étalé les paiements. Mais toi, t'as traîné. Maintenant, il faut tout payer d'un seul coup. Ils sont bêtes, les gens. Parce que, bon Dieu, il est gentil, il étale les choses. Normalement, la vie, elle devrait durer 10 minutes. C'est comment ça devrait se passer? On devrait naître à 33 ans, comme ça vous savez. Oui. Avec le cerveau de 33 ans, le vécu de 33 ans, l'expérience de 33 ans, Dieu nous dirait, veux-tu accomplir les mitzvot? Oui. Et tu pourras le faire? Oui. Voici les téfilim. Veux-tu les mettre? Oui. Mets-les, je les mets, merci. Eh bien, tu peux partir, fais le schéma et meurs. Et c'est fini la vie. Pourquoi ça dure 120 ans? Pourquoi? Ça sert à rien. De toute façon, qu'est-ce qui vient? Pourquoi tu es venu sur la terre? Pourquoi faire? Pour remplir des jupes, vider des jupes, remplir des jupes, vider des jupes. Pourquoi faire? Remplir le magasin, vider le magasin, remplir le magasin, vider le magasin. De toute façon, à la fin, tu vas remplir un seul magasin. Dans un endroit très calme, où les rayons sont visités que par des gens qui viennent pour pleurer. Alors à quoi ça sert? Donc la vie, elle aurait pu durer 10 minutes. Pourquoi une sur 120 ans? Et 80 ans, et 40 ans, et 50 ans. Tu sais pourquoi? Pour que tu grandisses. Parce qu'il espère bien le bon Dieu que la personne qui est venue et la personne qui part, c'est pas la même. Mais quand tu vois des gens de 70 ans qui ont un niveau de gamin de 14 ans, tu dis, mais quoi, ils étaient dans le coma pendant 56 ans, quoi. C'est possible. Simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas profité. Il dit, la tset, mais la koach, la poal, passer du potentiel au réel. Oui, de réaliser. Il dit là-bas, liot lo srartov. Non, liot lo srar maasetov. Velosrar lev tov bilvan. Regardez le Ramban comment il est, si vous le lisez bien dans les mots, les rabbanim de cette époque-là, ils ne sont pas comme maintenant, qui mettent des heures et des heures pour expliquer. Il met quatre mots. Maintenant, il met quatre mots, toi tu réfléchis. Tu peux rester trois ans à réfléchir. Il dit quoi? Qu'à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé l'épreuve à Avraham Avinu, liotlo pour qu'il ait srar ma'asetov, la récompense, pour un ma'asetov, pour une action qui est bonne. Vélo srar lev tov bilvan, et pas simplement la récompense pour un lev tov, pour un cœur qui est bon. On l'a expliqué déjà quelques centaines de fois, mais étant donné que je vois des nouvelles têtes, et je pense que les redoublants, ils peuvent réécouter, et plus les gens qui viennent par intermittence, que c'est très dur pour moi de faire un programme avec des sauts de cours, mais je vous donne le principe. Écoutez bien. Lève, le cœur, c'est quoi le cœur? C'est l'intériorité de la personne. Le cœur, c'est le spectre psychologique de la personne. Le cœur, c'est l'intérieur de la personne. Maintenant, leftov, ça veut dire que la personne à l'intérieur, elle est construite. Maintenant, un homme, toute sa vie, il va avoir deux rôles. Un rôle, de construire son intériorité pour être une personne complète. D'accord ? Comme j'ai des bras et j'ai des pieds, et j'ai une tête, je dois aussi avoir une tête psychologique, je dois avoir des bras psychologiques, je dois avoir des jambes psychologiques. C'est-à-dire que ma silhouette psychologique, elle doit être entière. Et ça, il faut le faire, il faut le construire. Ça s'appelle l'estov. D'accord ? Mais en même temps que je construis mon intériorité, il faut que j'ai réussi à réaliser quelque chose qui est tov. Maintenant, si tov, ça veut dire complet dans la Torah. Donc à chaque fois que je construis quelque chose de tov à l'intérieur, il faut que je construise quelque chose de tov à l'extérieur. Maintenant, le tov à l'extérieur, c'est-à-dire que mon acte à l'extérieur, il est complet. Maintenant, je vous dis la vérité, une personne qui est complète va créer quelque chose de complet. Une personne qui est incomplète, elle va produire quelque chose qui est incomplet. Parce que ton acte, il est juste la projection de ce que tu es. Ton acte, il est la projection de ce que tu es. Donc c'est quoi Srar Ma'asé Tov? Ma'asé Tov. Le Ma'asé Tov. Une action qui est Tova, une action qui est Tov. C'est quoi? C'est une action qui est complète, qui est entière. Maintenant, c'est très dur de faire quelque chose qui n'est pas, qui ne contient pas une petite erreur. C'est difficile. De faire une mitzvah complète. De faire une bonté complète. Tu fais une bonté à quelqu'un complète. Ça n'est ni pour gagner, ni pour embrouiller, ni pour acheter la personne, ni pour l'influencer. Ça n'est pas ni pour la manipuler. C'est simplement pour faire un chesed. Simplement pour faire un chesed. Oui. Et ce chesed-là, de lui donner une dimension de mitzvah. Par exemple, on a vu là, dans la paracha que Lot et Abraham, pourtant Lot il avait appris les qualités de chesed d'Abraham, mais lui il suivait sa nature. Parce qu'il avait une nature d'être gentil, parce qu'il a été éduqué par quelqu'un qui était gentil. Mais Abraham, lui, aussi, il était gentil. Mais lui, il n'était pas gentil parce qu'il était gentil. Il était gentil parce qu'il y avait une mitzvah d'être gentil. Quelle différence? Ouais. Qu'est-ce qui est la différence? Moi, j'ai pris la mitzvah, j'ai une nature d'être gentil, mais je vais maîtriser ma nature d'être gentil pour accomplir le fait de faire du chesed parce que Dieu l'a ordonné et pas simplement parce que ma nature, elle est d'être gentil. Qu'est-ce que ça change? Par exemple, là, je suis gentil parce que c'est ma nature, et là, je suis gentil parce que Dieu l'a ordonné. Il dit, non, il y a une différence. C'est que quand tu es dans une épreuve de gentillesse, de chesed, ouais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu dois choisir. Tu dois rester avec Adam, avec Abraham Avinu, ou tu dois partir à Sdom? Alors, tu dis, je vais aller faire du chesed à Sdom. Ah, t'as vu? Le chesed qui va selon la nature, il est influencé par tes intérêts. Alors que le chesed qui va selon la mitzvah, il n'est pas influencé par tes intérêts, parce que tu ne le fais pas pour toi, tu le fais parce que bon Dieu t'a demandé. Parce que vous tuez. Bah là, j'ai un problème avec ma femme, comment je vais faire? Si je dis, bah, il faut faire le shalom, hein, c'est bien le shalom, et puis ça enlève le stress, et puis on va avoir une ambiance à la maison, ça va être bien. Non, je vais faire le shalom, tu sais pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Parce que je veux qu'il y ait la présence divine dans ma maison. C'est pour ça que je le fais. Maintenant, accessoirement, à part ça, on va être gentil, on va être bien, il y aura de l'ambiance, on va peut-être faire le quatrième, on va se retrouver au niveau intime, à part ça. Mais au départ, pourquoi je l'ai fait pour le shalom? Je l'ai fait par la mitzvah du shalom. Parce que si je le fais, parce que moi j'ai besoin du shalom, déjà j'ai un intérêt. Donc il va se mélanger l'amour propre, l'orgueil, la bêtise, l'entêtement, la lourdeur, les intérêts, le physique, l'intimité, ma mère. Parce que si t'es pas en paix avec ma mère, comment je vais être en paix avec toi? Donc tu dois lui demander mehila. Mais quel rapport avec ta mère? Si c'est bon Dieu. T'as compris dans la fonction? Donc à chaque fois que tu donnes un niveau élevé à un acte, tu gagnes toutes les superficialités. Mais si toi, tu ne veux pas lui donner un niveau de mitzvah, tu es dans les contingences matérielles du réel. Alors ça va, ça vient, les humeurs. Pourtant, c'était l'autre, c'était le neveu d'Abraham. Et Abraham Avinu, c'est pas n'importe qui, oui. Mais toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, à l'intérieur de toi, il y a Abraham et l'autre. Vous savez, parce qu'on n'a pas le droit de faire la chanara sur l'autre. Alors on parle toujours de l'autre, c'est facile de parler de l'autre. Toujours l'autre, la femme de l'autre, la femme. Donc il y a l'autre qui est en toi. Il y a toi et l'autre. Il y a Abraham et l'autre. Donc toi, qui tu vas écouter des deux? Maintenant, le bon Dieu, il veut que tu développes le Abraham qui est en toi. Mais tu peux aussi développer le l'autre qui est en toi. L'épreuve, elle va arriver devant toi. Tu auras une possibilité ou de mettre de l'énergie pour développer le Abraham ou développer le l'autre. Comment tu sais si toi, tu développes le Abraham? Ouais, parce que déjà à l'intérieur, tu avais travaillé pour l'Abraham. Alors après, tu réalises pour l'Abraham. Mais si tu vois que tu réalises pour le lot qui est dehors, donc ça veut dire que départ à l'intérieur, tu as développé le lot, tu n'as pas développé l'avant. Et ça, il n'y a que la personne elle-même qui peut savoir. Pourquoi tu mets les tefilines? Parce que c'est une mitzvah ou que ça porte bonheur? Pourquoi? Pourquoi tu manges cachère? Pour la santé ou pour la mitzvah? Pourquoi tu mets une mezouza? Pour protéger la maison? Ou parce que Dieu, il a dit, il faut mettre une mezouza? Chaque mitzvah, chaque acte, tu peux réfléchir. Est-ce que quelqu'un va dire, écoutez, oui, mais enfin, on, nous ne sommes pas tellement religieux, donc nous ne rentrons pas vraiment dans ce cadre de problématique. Mais quand tu dis bonjour à ta femme, est-ce que c'est pour avoir la paix ou c'est pour construire le dialogue? Il n'y a aucun rapport avec la religion, là.
Ouais.
Quand tu fais une réprimande à ton fils, c'est pour te défouler ou c'est pour l'aider à se construire? Réfléchis bien. Parce que ça, c'est de l'amour et ça, c'est de la haine. Ça, c'est du mépris et ça, c'est de l'investissement. Alors réfléchis bien. Qu'à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu agis, à chaque fois que tu penses, ça va être une épreuve. Qu'est-ce qui va sortir de toi? Le bon ou le mauvais? Réfléchis bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je vais utiliser la réalité, ce qui est marqué ici, Lioklo ma se, sar ma se tov. C'est-à-dire que je veux, et qui ne rêve pas que ses actions produisent des fruits? Qui ne rêve pas de ça? Parce que le pire de la vie, c'est quoi le pire? C'est de produire des choses qui vont à l'encontre de ce que j'attendais. C'est la mort. Comme quelqu'un, il fait une maison, elle s'écroule. Il va mourir. Il crée une boîte pendant 10 ans. En 5 minutes, elle est perdue. Ouais. Il éduque l'enfant. Et il part en sucette. Ouais, une balle perdue au Vietnam. Ça fait de la peine. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait de la peine? Le gaspillage. Donc qu'est-ce qui fait plaisir? L'utilité. Maintenant, l'utilité, c'est quoi? C'est simplement que la chose, elle a été dans le sens de ce qui devait être. Et c'est bien. Il y a eu un effort et il y a eu un résultat. Ça s'appelle Leftov. Et ça s'appelle Maasetov. Maintenant, quand toi, tu étudies la Torah, quand tu pries, quand tu réfléchis avant de parler à ta femme, quand tu te remets en cause, tu dis ça, attention, ça c'est de l'orgueil, ça c'est pas moi, ça c'est les nerfs, ça c'est le stress, ça c'est... En vérité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de construire le Leftov. Et ça, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Jusqu'à ta mort, tu vas continuer à travailler. Ouais. Maintenant, après que tu as réussi à construire cette personne-là à l'intérieur, qui est entière, qui est vraie, qui est pure, tu sais la reconnaître, alors après, tu dois prendre cette énergie-là et l'orienter pour qu'elle produise quelque chose de tov. Et le marassé, l'action, elle est comme l'ombre. Il y a la main, tu la mets devant la lampe, et il y a l'ombre. S'il y a 5 doigts dans la main, il y a 5 doigts dans l'ombre. S'il y a 4 doigts dans la main, il y a 4 doigts dans l'ombre. Maintenant, l'ombre, c'est quoi? C'est ton action. Et la main, c'est toi. Donc, ton action te représente. Ta maison, elle te ressemble. Ton couple, il te ressemble. Tes enfants, ils te ressemblent. Ton business, il te ressemble. Tes amis, ils te ressemblent. Tout te ressemble. Pourquoi? Parce que ça te correspond. Ça s'appelle en français l'effet miroir. C'est un effet miroir. Maintenant, il y a des gens, ils utilisent des miroirs pour autre chose que pour s'épiler. S'épiler. Enlever les éléphants. Ouais. Pour enlever les poils. Tu peux faire ça pour autre chose. D'accord? Tu peux regarder la femme que tu es devenue, la maman, comment elle s'est conduite. Tu peux regarder le papa, est-ce qu'il joue son rôle. Tu peux regarder dans le miroir. N'aie pas peur! Tu regardes dans le miroir. Il dit, cette orientation-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire qu'au fur et à mesure, tu vas tirer l'enseignement et tu vas améliorer ton comportement et tu vas améliorer le résultat. Et après, tu vas encore analyser le comportement et tu vas encore analyser et tu vas apprendre et tu vas apprendre. Maintenant, après, le problème, c'est quoi? C'est que l'épreuve, elle est en fonction de la personne. Ça veut dire que, pour prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah, il faut comprendre, c'est des gens qui ont attendu des dizaines d'années. C'est pas aujourd'hui, des gens, quand, au bout de 2 ans, ils n'ont pas d'enfant, ils disent, oui, il doit avoir un problème de stérilité. Là, c'est 90 ans. C'est long.
Ouais.
90 ans de... Et un jour, elle est enceinte. Elle vient dire à son mari, tu sais, je crois que j'ai du retard. Elle dit, écoute, chérie, ça fait 60 ans que tu as du retard. Ouais, c'est quoi maintenant? Elle est enceinte, Sarah. C'est une épreuve, ouais. Elle-même, elle a rigolé quand on lui a dit ça. Elle a dit, on l'a appelé Yitzhak. Ouais, c'est une épreuve. Comment on dit maintenant, mon mari, il va être papa et moi, je vais être maman. Ouais. En plus, cette grossesse, elle a été accompagnée de dizaines de miracles, exprès. On a augmenté les miracles, on l'a fait. C'est marqué que quand elle a accouché, alors pour pas, parce que les gens ils ont dit oui mais non c'est une histoire de marketing, on sait très bien que Avraham Avinu c'est un chef de secte et il veut diffuser sa croyance dans le monde, donc il a fait genre il a eu un bébé, comme ça tout le monde va dire ouais il y a eu un miracle. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour que tout le monde sache que c'était pas un miracle? Il a donné du lait à Sarah. Donc déjà une femme de 90 ans qui accouche, pas évident, mais en plus elle a du lait. Mais qu'est-ce qu'il a fait en même temps? Il a fait que toutes les femmes de tout le pays elles avaient plus de lait. Maintenant toutes les femmes elles doivent amener le bébé à l'été à Sarah. Donc imagine le genre de lait qu'elle avait pour pouvoir allaiter toute la génération. Maintenant le Shemishmo, elle dit, le lait, vous savez que le lait c'est du sang. Le lait c'est du sang qui devient du lait. Vous êtes au courant, non? Vous n'êtes pas des vaches. Non, je vous rassure. Donc le lait, c'est le sang qui devient du lait. C'est pour ça d'ailleurs qu'un adulte n'a pas le droit de boire de lait d'une femme. Vous savez ça? Un adulte, un homme juif, n'a pas le droit de boire le lait d'une femme. C'est comme s'il boit, il prend du sang. C'est assourd. C'est assourd. Le bébé, il a le droit, mais l'adulte n'a pas le droit. Bon, c'est vrai qu'on a essayé, bon, voilà. D'accord. Donc, c'est assourd de prendre ce lait-là. Il est à rêve pour un homme. Mais d'un autre côté, qui a dame ou un éfèche, il est le sang de la personne. Donc cette génération, elle a bu le lait de Sarah. Donc elle a bu le sang de Sarah. Donc elle a bu le néfèche de Sarah. Et c'est normal qu'il y a tellement de gens qui sont revenus à la croyance en Dieu. Qu'un homme, il est ce qu'il mange. Ouais. Donc il y a eu des miracles au moment de la naissance. Après, ils ont tellement attendu pour la voir. Après, tout ce qui s'est passé pour cette... Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit... Cet enfant-là, tu vas le prendre, tu vas le sacrifier. C'est compliqué pour Abraham. Maintenant, Abraham, lui, il représente la miséricorde, il représente le chesed, il représente la gentillesse. Tu vas dire, tu prends ton fils, tu le mets sur un truc, tu l'égorges, tu le coupes en morceaux, tu le brûles. Wow! Demande-moi un truc un peu plus facile. C'est une épreuve sentimentale, une épreuve émotionnelle, une épreuve intellectuelle aussi. Pourquoi? Parce que combien il a d'enfants? Deux. Mais il lui a dit qu'il béitra qui carré des chazera. C'est de Yitzhak qu'elle viendra ta descendance. Donc maintenant il a un problème. Parce que d'un côté on lui dit que c'est Yitzhak qui va être la descendance, et d'un autre côté on lui dit de tuer Yitzhak. En général, c'est rare que les gens morts aient une descendance. C'est rare. Donc il n'y a pas. Donc maintenant il a un problème intellectuel. Qu'est-ce que je dois faire? Après, il a un problème aussi intellectuel de dire peut-être j'ai mal compris. Il a entendu une voix comme ça. Il a dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ouais. Peut-être qu'il a entendu une voix comme ça, c'est pas lui. Des fois, les gens, ils entendent des voix. Surtout aujourd'hui, avec toutes les vitamines qu'ils prennent. On entend souvent des voix, ouais. Comment savoir? Ouais. Eux, ils pensent qu'il a essayé de tuer l'autre. C'est dommage qu'il l'a raté. Mais d'après eux. Mais c'est quoi l'idée? Mais c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a mal compris. En plus, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il lui demande à lui de faire un sacrifice. Mais le sacrifice, c'est qui va mourir? C'est Yitzhak. D'accord? Maintenant, moi, j'ai envie de faire une grande mitzvah. Ah, moi, j'ai envie de faire une grande mitzvah. Tiens, j'ai envie d'offrir 1 million d'euros à la synagogue. Tiens, j'ai envie de créer une yeshiva. Tiens, mais ça me touche à moi. Mais si je vais voir mon fils, tu sais, j'ai envie de faire une grande mitzvah. Quoi, je vais te tuer? On lui dit, écoute, tu veux faire des mitzvot? C'est bien. Il est matov. Mais attends, mais tu veux que moi je meure pour que toi tu fais une mitzvah? Est-ce qu'on peut faire une mitzvah par le biais de l'autre? C'est comme si le matin, j'ai pas le temps de mettre les tefillin. Je t'en prie, tu peux les mettre pour moi? Tu penses, hein? Yiria, Yaakov, Ben Simcha. C'est bon, allez, ciao, à demain. On peut pas mettre les tefillin pour l'autre. On peut pas, vous savez ou non? Oui, non? Vous savez pas non plus? Ouais, sortez un peu, si ouvrez vos yeux, il n'y a pas que la télé. Oui? On peut pas mettre des tefillin pour quelqu'un d'autre. C'est comme si vous, là, votre voisine, elle va au mikvé pour vous, c'est possible? Si quand tu trempes 30 fois de toi, deux fois, parce que j'ai une petite mycose en ce moment, je préfère ne pas y aller, alors tu vas tremper deux fois. Mais non, je ne peux pas se tremper pour toi. Pourquoi? C'est ton corps qui doit être dans le mikvé, c'est pas la pensée de l'autre qui pense à ton corps. Alors ça s'appelle une mitzvah tout yabigoufo. Une mitzvah qui dépend de ton corps, eh ben c'est toi qui dois la faire. Maintenant toi, Abraham, tu veux faire cette mitzvah. Bah, au rabat, il est matov. Voilà le couteau, voilà. Allez, vas-y, monte et saute. Non. On va pas la faire comme ça. Toi, je vais avoir la kavana, je vais t'égorger. Et comme ça, moi, je vais faire la mitzvah du sacrifice. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait des sacrifices, des épreuves qui n'impliquent pas que soi-même. Parce que moi, quand j'ai dit une femme, je l'aime. Ouais, ça veut dire que c'est un sacrifice, elle va faire une akeda puisqu'elle va sacrifier sa vie pour moi. Et c'est après, j'ai réfléchi. En fait, je t'ai jamais aimé. Au début, j'ai dit ça comme ça, je croyais que l'amour allait venir. Donc elle a dit quoi, tu m'as utilisé ma vie pour un doute que peut-être qu'un jour tu allais m'aimer. Donc toi, tu étais la Yitzhak et moi, j'étais l'Abraham. T'as compris comment ça marche? Un enfant, c'est pareil. Tu es en train de faire akeda Yitzhak maintenant. Tu le frappes, tu l'insultes, tu le maudis. Oh, doucement là. Tu veux t'amuser, monsieur l'éducateur? Comment tu joues à l'éducateur avec la vie de l'autre? Peut-être c'est mieux de le mettre dans une famille plutôt que si tu n'es pas capable de le faire. Donc tu vois là, c'est Yitzhak et Abraham. Toi, tu prends l'argent de l'autre pour faire du business. Et après, tu t'es planté. Puis je me suis planté. Je me suis dit, attends, mais moi, je ne suis pas Yitzhak, moi, tu n'es pas Abraham. Hein. Tu as voulu faire l'argent, le business avec mon argent à moi. Prends ton argent à toi. Ça s'appelle trader, c'est connu. Ouais. Ouais. Quelqu'un ne prend pas de risque, il te fait des conseils. Après, il s'est planté. S'il gagne, il gagne. S'il perd, il ne perd rien. Et toi, tu perds toujours. Donc c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que là encore, c'est une akeda. Mais toute la vie, c'est des akedas. Toute la vie, c'est des sacrifices. Toute la vie, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que malheureusement, on ne peut rien produire sans prendre de risques. Et on ne peut rien gagner sans prendre de risques. Tu as ouvert le magasin, tu as pris un risque. Ah, et comment je vais faire pour payer le loyer? D'accord. Mais si tu prends pas de magasin, tu gagnes pas d'argent. Ouais, c'est vrai, je gagne pas d'argent. Il y a des gens qui disent, ben moi, je préfère ne pas prendre de risque. Ah ouais. Et alors, comment on part en vacances? Ah, c'est vrai, c'est un problème. Alors, on ouvre le magasin. Ah oui, mais il faut payer le loyer. Comment tu vas faire? Donc, les gens, ils acceptent de payer le loyer. Ouais. Ils acceptent d'assumer l'enfant. Ils acceptent d'assumer le couple. Donc, il va falloir faire un sacrifice. Maintenant, c'est pour ça que ça produit des résultats. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais dit que dans la vie, ce qu'on a dans la vie, c'est pas ce qu'on a obtenu, c'est ce qu'on a sacrifié pour l'avoir. Dans chaque chose. Ouais. Sache que ce que tu as, les gens y croient parce qu'ils ont eu de l'argent, ils ont eu une femme, ils ont eu des enfants, ils ont eu... T'as rien fait pour avoir, tu as reçu. Ça t'a pas fait changer. Par contre, ce que t'as sacrifié, avoir une femme, c'est une chose. Mais conserver son couple, c'est beaucoup de sacrifices. Ouais. Avoir des enfants, c'est rien du tout. Tu la mets enceinte, hop, elle accouche, c'est terminé. Les gens y croient, ouf, on a passé l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est le début. C'est le commencement de l'histoire. Ah, c'était difficile. Non, c'est rien. C'est après que ça commence, les choses sérieuses. Ouais. Parce qu'après, il y a l'éducation. L'éducation, c'est beaucoup plus que l'accouchement. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'il va falloir faire des sacrifices. Maintenant, le sacrifice, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tu changes. Maintenant, ce que tu changes, ce qui te fait changer, ça veut dire c'est ce que tu es devenu. Alors, à la fin, qu'est-ce qui reste, en fin de compte? Il reste le fruit de tous les sacrifices que tu as produits. Mais alors, comment on appelle le sacrifice? Un corban. Mais on n'est pas obligé de l'imaginer comme le sacrifice. Ça veut dire encore des sacrifices. Mais ce n'est pas un sacrifice. L'autre, il aime sa femme. Il aime le shalom. Ce qu'il aime sa femme, c'est facile, non? L'autre, il adore ses enfants. Il fait un kiff d'apprendre la lève bête et d'expliquer à l'enfant qu'est-ce que c'est l'honnêteté et de faire du sport avec lui et de lui expliquer, mon fils, regarde qu'est-ce que c'est la droiture. Il fait un kiff. Ouais. Maintenant, celui que ça le saoule, ça lui prend la tête. Parce que l'enfant, il est né par accident. Il ne voulait pas cela. Lui, il voulait une PS3, il voulait... Un enfant, c'est compliqué, l'enfant. L'ordinateur, tu fermes, il s'éteint. L'enfant, tu fermes, il continue à l'ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au départ, dans ton engagement, tu n'es pas prêt à faire les sacrifices, mais ça va être l'enfer. C'est ça, l'enfer. C'est ce que c'est, l'enfer. L'enfer, c'est les sacrifices qu'on n'était pas prêt à faire. Et le paradis, c'est quoi? Le paradis, c'est les sacrifices que tu veux faire. Donc, facteur commun, sacrifice. Alors, celui qui aime son travail, celui qui aime ses enfants, celui qui aime sa vie, celui qui aime HM, il n'y a pas de sacrifice. Quel sacrifice? Il kiffe la prière, il dit, oh, c'est pas dur d'aller à la prière. Mais il kiffe la prière. Il aime bien, il adore prier. Il aime bien cette proximité avec HM, il adore. L'autre jour, il y a une maman, elle est venue me voir. Elle me dit, Rabbi Shekhit, qu'est-ce qu'on doit faire avec un enfant de 12 ans qui ne veut pas aller à la prière? Je lui dis, mais madame, le Shabbat. Je lui dis, mais madame, d'abord, comment il a pu imaginer qu'il n'était pas obligé d'y aller? Comment il a su qu'il ne devait pas aller à la prière? Comment il a su? Et là-bas, que la maman dit, il est petit, laisse-le tranquille, laisse-le dormir, il a que ça du matin, il dort, d'accord, laisse-le dormir. Et le père, lui-même, pour aller à la synagogue, c'était la mort. Lève-toi, allez, lève-toi, David, lève-toi pour la prière. Ah, c'est bon, ça va, il se lève, après, il arrive, il s'habille, arrive pas, allez, ça va, j'y vais, ouais, ça va. Ah, tu m'avais promis avant le mariage, dans la synagogue, ouais, ça va, j'y vais. Et tu vois, il marche à la prière, ouais. Il marche, ouais. Il porte une baguette David énorme. Les gens, ils croient qu'il va à la mort, tu vas à la mort, énorme, dans la prière. Il arrive à 10h ou à 11h15, il fait cracher moi pendant Moussaf et. Heureusement, il y a le kidouche pour compenser. Ouais. Mais tu crois que ton fils, qui voit que tu vas à la synagogue avec la mort sur la figure, tu crois qu'il a envie de se lever? Ça veut dire quoi? J'ai dit, mais madame, votre fils, il doit kiffer la prière. Il doit penser que c'est un mérite dans la prière. Pas le contraire. Donc ça veut dire que la notion du sacrifice, elle dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es avant. L'autre, il aime son travail. Il travaille 15 heures par jour. Tu dis, mais ça ne vous fatigue pas? Mais il adore le travail. Mais l'autre qui aime glander, chaque minute, c'est une mort comme ça. Depuis le 1er septembre, il pense aux vacances. Où je vais partir? Comment je vais partir? Comment je vais partir? Quand je vais les RTT, les RPATT, les FLATT, les TLATT, rien qu'il pense. Alors, c'est dommage parce que comme il fait 11 mois de travail et un mois de vacances, il va mourir 11 mois. Il valait mieux qu'il fasse 11 mois de vacances, un mois de travail. Il attaque une banque tous les jours. Il va avoir les vacances pendant 30 ans, loyer payé, avec le logement truc, avec la nourriture assurée, et il pourrait apprendre toutes les langues du Maghreb. D'accord, donc l'idée, c'est que la personne, au fond, et ça c'est très important, elle n'a pas abordé l'épreuve de la bonne manière. Elle n'a pas abordé l'épreuve de la manière positive pour construire, pour grandir. Alors c'est elle qui a rendu lourde l'épreuve. Parce qu'il n'y avait rien. Vous voyez bien des femmes que toute leur vie elles ont travaillé, et elles n'ont jamais dit c'est l'esclavage. Et c'est content. Elles sont restées dans leur cuisine, à faire à manger, des gâteaux, des trucs, des chabats, des trucs, des fêtes. Et tu crois qu'ils étaient malheureux? Non. Toi, grâce à Dieu, tu as fait des études, tu as travaillé, tu as fait tes enfants, des trucs. 28 ans, Xanax. Antidépresseur, je comprends pourquoi. Oui, de toute façon, j'ai pas vécu la vie que je voulais, et je voulais être diplomate, je voulais racheter Ron Poulenc. Alors, tu crois que je vais rester enfermé dans une cuisine? C'est bizarre, l'autre qui a rien vu de sa vie, elle a jamais fait la tête. Et toi, que genre, t'as vu le monde entier, t'es dépressif, c'est bizarre, hein? Tu sais pourquoi? Parce que c'était pas ton projet, parce que tu t'es pas impliqué pour. Tu veux être une femme libérée? Alors libère-toi, mais ne fais pas libération plus culpabilité. Tu veux faire une femme pas libérée? Ne fais pas culpabilité plus pas libérée. C'est quoi? C'est toi qui as donné la nature de l'épreuve. C'est toi qui as donné le sens de l'épreuve. C'est toi qui as donné l'intériorité de l'épreuve. Alors c'est la logique. Ah, maintenant ça, vous allez dire, oui, mais ça c'est bien pour les choses qu'on a envisagées, parce que moi je suis rentré dans le mariage. Moi j'ai conçu cet enfant. Mais les choses qu'on n'a pas préparées, voilà, il vient, c'est cassé la jambe. Voilà. Voilà, il vient le redoublement. Voilà, mon fils, il me présente quelqu'un que j'osais pas imaginer, même dans mes cauchemars. Maintenant, il y a un deuxième niveau dans l'épreuve. Ouais. C'est la musculation. Musculation et souplesse. En français, ça s'appelle une épreuve, que l'épreuve, c'est pas l'épreuve. L'épreuve, c'est la capacité de s'adapter à l'épreuve. Alors, je vais vous expliquer physiquement qu'est-ce que ça veut dire. Une fois, un professeur de boxe, il m'a expliqué. Il m'a dit, si quelqu'un te donne un coup de poing dans l'abdomen, si tu bloques les pectoraux pour les rendre comme une plaque de fer, l'onde de choc, elle va faire exploser la rate qui est derrière. Mais si toi, tu prends le coup et tu accompagnes le coup, alors l'impact, il va se diffuser et ta rate, elle ne va pas exploser. Je dis, mais comment je vais accompagner le poing? Il va me traverser, il va sortir de l'autre côté. Il ne va pas sortir de l'autre côté. Ouais. Donc, dans la vie, c'est pareil. Il y a des coups qui vont arriver. Des coups, ils vont arriver, on ne sait pas. Ouais. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a produit, il a gagné 1 million, 2 millions, 7 millions, 8 millions, 9 millions. Il a dit, ah, ça marche de folie. Son produit, oh, il a fait des commandes en Chine, il a multiplié par 100 000, il s'est retrouvé. Je vais d'abord raconter ça. Le mec, il s'est retrouvé avec 1 million de paires de baskets. Et ça marche plus. La mode, elle est passée chez Hala. Vous savez, les baskets, tu ne peux pas les peindre une par une. En Amérique, c'est des effets de mode. Paf, paf. C'est pas du papier toilette, tu le vends ça et tu le vends dans 10 ans. Non, c'est la mode. C'est cette marque-là, ce dessin-là, ce design-là, il marche bien. Il marche bien un an, il marche bien 2 ans, il marche bien 3 ans. Tous les ans, c'est la loterie. Mais non, il ne marche plus. Il m'a amené là-bas dans son entrepôt, il m'a dit, il a fait moi une bracha. 10 minutes, j'ai marché dans l'entrepôt tellement il est grand. Je ne savais pas où mettre les mains pour faire la bracha. 10 mètres de haut, je vous promets, il y a 50 mètres sur 50 mètres l'entrepôt, un truc énorme, 1 million de paires de baskets. Il m'a dit, rien, j'ai rien à faire. Et finalement, il ne l'a pas fait, il ne les a pas rendus. C'est fini. Ça veut dire quoi? Le mazag, c'est fini. Mais tu ne peux jamais, tu veux jamais savoir. Tu ne peux pas savoir. Ça va exploser ou ça va pas exploser? Mais d'un autre côté, tu es obligé de les commander. Tu dois la faire la collection d'été, non? En hiver, tu es obligé de la faire. Tu dis, et si il pleut tout l'été? Colloir de Mazzalou. T'as compris cette logique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est. C'est impossible de ne pas prendre des risques. Ouais. Maintenant, la notion de la prise de risque, c'est quoi? C'est la musculation des estomacs, c'est la musculation des nerfs, c'est la musculation de la vie. En français, on appelle ça la maturité. Parce que je vais, même un docteur, il va dire un diagnostic, c'est une maturité. Et tu dis, le chirurgien dit, faut pas opérer. C'est compliqué. Parce que là, on touche à la colonne vertébrale. On n'opère pas, tu crèves de douleur. On opère, peut-être tu vas rester sur une chaise roulante. Il faut qu'il décide, le médecin. Et le dit, je vous en prie, alors qu'est-ce que je dois faire? C'est un poids. Oui. Alors maintenant, toi, tu réfléchis. que toi, on t'a posé la question, donc c'est que tu es capable de répondre, et toi, on t'a envoyé le problème, donc c'est que tu es capable de l'assumer. Ça fait deux personnes l'un en face de l'autre. Ça va? Mais si toi, en tant que malade, tu te mets entièrement entre les mains du médecin, et ça, en tant que médecin, tu demandes au malade, écoutez, faites ce que vous voulez, je vais vous suivre. Mais lui, il est venu chez toi pour avoir un conseil, toi, tu lui dis, portez le poids que je dois porter moi. Vous suivez, moi? C'est que moi, en tant que médecin, on me pose la question. Comme moi, en tant que rage, on me pose la question. On me dit, alors, qu'est-ce que je fais? Rage, j'ai divorce ou je reste? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai découvert la liaison, le type, il est de Djerba, il est animateur dans un club, elle est partie là-bas une semaine, elle ne me dit pas où elle est revenue. Et elle veut divorcer. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me battre pour sauver mon couple ou non? Alors que je suis 99% qu'elle m'a trompé. Et moi, le type, il est en train de pleurer. Et la femme, elle vient, elle dit, j'ai rien fait. Où vous étiez? Je peux pas vous le dire. Qu'est-ce que vous avez fait? Je peux pas vous le dire. On fait quoi? On fait Nia. Écoutez, c'est pas grave. On va découper au montage le film. On va s'imaginer que cette semaine n'est pas arrivée. Et on va faire comme si de rien n'était. Comment on va faire? C'est des questions, on te pose des questions. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? L'autre, il dit, j'ai des tentations homosexuelles. Il est gentil, il est sérieux, il est bien, il n'est pas vicieux, il n'est pas pervers. Il dit, voilà, je suis attiré par les garçons, s'il y a que ça qui m'intéresse, je ne veux jamais me marier, je ne vais pas tromper une femme de lui faire croire que je vais l'aimer alors que je ne vais jamais l'aimer. Qu'est-ce que je dois faire, grave? Je dois mourir. Maintenant, encore une fois, lui, il me pose la question à moi. Moi, je dois répondre. La semaine dernière, j'ai fait un cours. Une femme est venue, elle m'a dit, ah, mais Chetri, j'ai compris ce que vous avez dit. Voilà, maintenant j'ai eu un cancer du sein. Et quand j'ai eu le cancer du sein, on m'a fait une certaine, je sais pas quoi, traitement. Et maintenant, je ne peux plus avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'il veut de mon Dieu? Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais régler ce problème maintenant? Mais le bon Dieu, il m'a envoyé cette question à moi. Donc moi, il faut que je trouve des mots pour rassurer une personne, pour qu'elle arrive à vivre avec un poids pareil, qui est lourd. Maintenant, l'épreuve, elle est pour elle ou elle est pour moi? Elle est pour les deux. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que moi, en tant que rave, je dois réfléchir pourquoi le bon Dieu il m'a posé cette question. Dans quel pourcentage je suis concerné? Parce que pour pouvoir répondre, il va falloir que je mette ma tête. Si je mets ma tête pour que je réponde quelque chose d'intelligent, il va falloir que je fasse un effort de maturité. Cette maturité, je ne l'ai pas, puisque au Hachem, je n'ai pas eu ce type d'événement. Donc maintenant, moi, on me met en situation d'une chose que je n'ai jamais vécue, mais auquel je vais devoir répondre. Pour y répondre, il faut que j'ai la maturité. Donc elle va me faire grandir de maturité. Maintenant, pourquoi va me faire grandir de maturité sur une chose qui ne me concerne pas? Donc il faut que je réfléchisse que le bon Dieu, des fois, écoutez bien, des fois le bon Dieu, au lieu de t'envoyer une épreuve, il t'envoie la question sur laquelle tu vas faire un effort de maturité qui va te donner le niveau de maturité sans avoir à vivre l'épreuve. Comme quelqu'un, son copain vient le voir, il dit écoute, je vais craquer, j'en peux plus, je suis tombé fou amoureux de ma secrétaire et j'ai envie de tromper ma femme. Et lui qui commence à lui parler, écoute, t'es malade, mais c'est une fille bien, t'as une famille, t'as des enfants, mais t'es fou, et lui parle, il attrape, vient dormir à la maison, il remet en cause, il l'amène chez les rabbins, mais tout ça. Ouais, le mec à la fin, il dit oh Hachem, tu m'as sauvé, ça y est, elle est partie, j'ai plus l'épreuve, tu l'as sauvé. Non, mais peut-être c'est toi qui allais avoir cette épreuve-là avec la secrétaire. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il t'a envoyé l'épreuve chez ton copain. Maintenant, toi, tu t'es battu. Mais pour le convaincre, il faut que tu sois convaincant. Pour être convaincant, il fallait que tu sois convaincu. Pour être convaincu, il fallait que tu aies ce niveau de maturité. Donc, le bon Dieu, au lieu de t'envoyer l'épreuve à toi pour voir si tu vas tenir dans ton couple, il va t'envoyer l'épreuve chez ton ami. Et toi, par solidarité pour ton ami, tu vas être obligé d'atteindre le niveau de maturité que tu auras atteint en ayant à subir l'épreuve. Vous voulez la preuve? C'est que moi, des gens, ils viennent me voir des fois. Ils me disent, ah ben, chérie, c'est pas possible. Ma femme qui m'a quitté pour quelqu'un d'autre, elle-même, elle a sauvé le couple de sa copine qui avait quitté son mari pour quelqu'un d'autre. Je dis, ben c'est là que tu vois. C'est qu'à l'époque, peut-être, quand elle l'a fait pour sa copine, elle n'en a pas profité pour grandir. Parce que pourquoi le bon Dieu, il va te mettre à l'épreuve puisque tu as passé l'épreuve? C'est comme si moi, j'ai passé le bac en candidat libre l'année d'avant. Je ne vais pas le repasser l'année prochaine puisque je l'ai eu. Non, je pouvais le passer en terminale. Je dis, non, je le passe en première. Tu sais quoi, je vais à la fin de la première, je vais voir l'académie. Tiens, j'ai dit, j'ai envie de passer le bac cette année. Vous avez le droit. Si vous voulez, vous êtes inscrit, vous avez le droit. Je le passe, je le réussis. Ah, j'ai eu le bac. Alors j'ai dit, ah, viens, mais maintenant vous avez atteint l'âge du bac, il faut passer le bac. J'ai dit, mais non, je l'ai eu l'année dernière. Ah, si vous l'avez eu, c'est autre chose. Si vous l'avez eu. C'est la grande violence. C'est-à-dire que les épreuves, je suis pas obligé de les vivre personnellement. Je peux les vivre pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que le but de l'épreuve, c'est le niveau de maturité. C'est pour ça que celui qui se soucie des autres, le bon Dieu, il va lui enlever des soucis qu'il aurait dû avoir avec ses enfants, parce qu'il a le souci des autres enfants. C'est ça s'appelle. Pourquoi? Parce que quand Israël arrive, il faisait la zèle, parce que les Israël sont liés les uns aux autres. Celui-là, on lui a donné de l'argent. Alors maintenant, il a le souci d'aider des gens qui n'ont pas. Donc pourquoi le bon Dieu, il va le mettre à l'épreuve de la pauvreté, puisque lui-même, il a pris sur lui l'épreuve de la pauvreté de l'autre, et il a comblé la pauvreté de l'autre. Alors bon Dieu, il a dit, c'est pas la peine de te mettre à l'épreuve à toi. Parce que on a vu que comment tu t'es conduit dans la pauvreté. Puisque tu as pris à cœur la pauvreté de l'autre. Ça t'a fait le souci. Pas rien comme ça, t'as fait un chèque, t'as été. Non, t'as réfléchi, t'as dit voilà, comment on va faire pour les enfants, comment on va faire. On lui a dit, voilà, la veuve, elle est seule, voilà, elle a pas, il n'y a plus de maison. Il s'est battu avec le maire, il a trouvé pour mettre un fonds pour payer le loyer, après il a trouvé l'école, il a été discuté le prix, et après chaque mois il envoie un chèque, et il se soucie, il envoie l'employé, il remplit le frigo. Ça c'est vrai, c'est de Zdaka. Ouais. Pas genre t'as fait un chèque à une institution qui prend 95% de frais de fonctionnement. Non, là le gars il a fait lui-même. Après un jour, la femme elle dit voilà, je vous invite au mariage de votre fils. Bon, oui, comment ça? Ben oui, parce qu'il avait 13 ans, vous rappelez. Maintenant, grâce à Dieu, il a 20 ans, et bien c'est grâce à vous, tout ça. Donc il faut maintenant venir assister au mariage de votre fils, parce que c'est vous qui l'avez sauvé, c'est vous qui l'avez aidé, c'est vous qui l'avez soutenu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait chrissène en vérité. Il a fait chrissène. Donc l'épreuve, il avait une épreuve de l'argent, à quoi il sert cet argent? On lui a donné de quoi faire. Ouais. Ou non, il pouvait mettre des miroirs au plafond de la salle de bain, il pouvait mettre de la moquette en or, il pouvait faire. Il y a toujours des idées, les décorateurs, ils ont des idées. Ou non, lui, il a pensé qu'il pouvait faire autre chose. Donc, il avait un essayon avec l'argent. L'autre, il avait un essayon, une épreuve avec la pauvreté. L'autre, elle avait une épreuve avec la beauté. Une fois, je faisais cours, à chaque fois que je faisais une blague, alors je disais, ouais, Miss Israël. Alors, une femme, elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit, ah, monsieur Trich, c'est pour moi que vous parlez, tout ça? J'étais Miss Israël. C'était une Miss Israël, hein, il y avait 15 femmes dans le... C'est une ancienne Miss Israël. Et moi, je parlais, je disais, oui, le gars, il a rencontré Miss Israël, il s'est marié avec Miss Israël, c'est une Miss Israël. D'accord? Alors, il me dit, mais maintenant, elle a fait tchouba, elle est couverte, elle est truc, c'est mute, et tout ça, et comme ça, comme ça. Elle dit, maintenant, elle fait 1m85, mais elle se met comme ça pour pas que les autres à côté, ils comprennent combien ils sont moins jolis. Ouais? C'est-à-dire, elle se maquille discrètement, elle ne veut pas faire le truc, parce qu'elle est belle, c'est une femme qui est belle, mais elle ne veut pas que sa beauté, elle la rend orgueilleuse, elle la rend superficielle, elle veut mettre de l'intériorité, mais mettre de la valeur. C'est-à-dire que celle-là, elle a fait son tikkun de l'initiation de la beauté. Parce que l'initiation de la beauté, c'est soit belle et soit bête. Plus t'es belle, plus t'as le droit d'être bête. Ça s'appelle des vedettes, c'était connu, ouais. Donc pourquoi elle va être intelligente? C'est ça, parce qu'elle est belle. L'autre qui n'est pas très belle, elle est obligée d'avoir des midotes, d'avoir de la douceur, de la gentillesse, parce qu'elle n'est pas très jolie. Mais celle-là, elle est tellement belle, tout le monde lui pardonne tout. Donc elle peut jouer dans le film, elle joue deux rôles, la belle et la bête. Mala, il n'y a pas. Ou le contraire, que la personne, elle sait, elle a un essayant dans la beauté. Comme celui-là, elle a un essayant. J'avais un gars qui venait au cours, c'était un mannequin, un vrai mannequin. Le gars mannequin. Il m'a dit, Raph, c'est pas possible, les filles m'arrêtent dans la rue. Elles me donnent leur numéro, elles me le mettent ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, bah, tu dois te renforcer. Tu vois. Le gars, il a fait de la yeshiva, il a fait. Mais c'est le beau gars, il est beau, comme ça. Ouais. Alors, il s'est laissé un peu la barbe, il s'est laissé un truc, et les pailleuses, comme ça, il dit, peut-être il va. Ah, encore pire. Parce que maintenant, il est beau, et en plus, il est pur. Voilà, double attirance. Là, les mouches, elles ne savent même pas pourquoi elles viennent. C'est un Issaïon. Celui-là, il a un Issaïon de Yosef. Donc, il va y avoir des missionnaires. Enfin, il y en aura des missionnaires. Ouais. Mais après, c'est quoi, on a dit? Comment la personne, elle va les aborder? Alors, je te dis, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu, dans sa gentillesse, dans sa grande bonté? Il va donner à la personne les étapes préliminaires. C'est-à-dire que dans l'étape d'avant, le bon Dieu, il te donne l'entraînement pour assumer l'épreuve d'après. C'est toujours comme ça. Ouais. Quand, on a dit, quand tu es célibataire, tu te construis. Donc, tu te prépares au mariage. Tes copains, tes amis, ils vont te préparer, ils vont te décevoir, ils vont te remettre en cause, ils vont te stresser, ils vont te travailler. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le grand Nissayon, que tu vas te marier. Donc si déjà une personne que tu vois 3 fois par semaine, elle t'énerve, une personne que tu habites avec elle va te sortir des yeux. Donc donc le travail que tu as fait en tant que célibataire, c'est pour pouvoir assumer, en fin de compte, la difficulté du couple. Après, tu es dans la même maison. Et tu es dans la même maison maintenant. Et les nerfs, et les trucs, et le caractère, et les trucs, et l'intimité, c'est pas facile, et le dialogue, et la remise en cause, et la famille, et ta mère, et ton frère, et ton soeur, ouais. Toute cette bagarre, c'est quoi? C'est pour pouvoir assumer les enfants. Parce qu'en tant que couple, si on se conduit comme des gamins, nos enfants vont avoir des gamins en face d'eux. Ça va être compliqué. Donc notre couple, il doit passer de l'état de gamin, c'est ta faute, c'est toi, c'est ta mère, c'est ta race, c'est ta truc, l'état d'adolescence, eh ben j'en ai marre, j'ai tout laissé tomber, l'état d'adulte, écoute, finalement t'es une fille super, ça va pas être facile, on va le faire ensemble, moi je t'aime, toi tu m'aimes. Donc maintenant on est un couple adulte. Maintenant quand notre couple adulte, il a passé sa crise d'adolescence, on pourra aborder ensemble la crise d'adolescence de l'enfant. Et c'est pareil quand l'enfant il est petit, tu te prépares aux autres crises, aux autres épreuves plus grandes. Après quand t'as marié le premier, tu sauras aborder la belle fille, la deuxième. Ouais. Et quand les enfants, ils auront des enfants, ce sera encore un autre travail. Donc à chaque fois, en fin de compte, le bon Dieu, dans sa grande bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare le programme. Maintenant, il y a des gens malins, ils travaillent. Ils travaillent. Oui. Ils travaillent, travaillent. L'enfant, il est là en face de toi. Vas-y, occupe-toi. Ah, j'ai pas la tête, c'est difficile. Ça me stresse, c'est pas mon boulot. Mais t'as pas compris. Tu es père, tu es mère. Donc si bon Dieu l'a envoyé cet enfant, c'est que toi t'en as besoin. Vas-y, profite. Alors tu vois pas maintenant l'utilité maintenant, parce que tu peux esquisser, tu peux dire j'ai pas le temps, tu peux dire j'ai pas la tête, tu peux dire je travaille trop, tu peux dire c'est pas mon boulot. Mais t'as pas compris. Si bon Dieu il pensait qu'il avait pas besoin de père, qu'il serait mort. Est-ce que vous me suivez? Quand moi je marche, ouais, et qu'il y a un miroir, quand je marche, il y a mon image en miroir. Je marche, je vois, hop, ouf, j'ai vu mon image, ouais. Mais s'il y a deux miroirs, mon image elle est de chaque côté. D'accord? S'il y a trois miroirs, elle est de trois côtés. Donc maintenant, moi et le miroir, on est liés. Maintenant, moi et le miroir de mon père, moi et le miroir de ma mère, moi et le miroir de ma femme. Donc mon reflet dans le miroir, c'est ma partie qui me concerne chez l'autre. Donc l'enfant, il me concerne. Donc, il y a une facette de moi qui va apparaître avec le miroir de l'enfant. Donc, maintenant, lui, il a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de lui. Maintenant, moi, j'ai besoin du petit, j'ai besoin du grand. C'est compliqué. C'est quand vous avez des enfants qui ont 20 ans de différence, ça fait bizarre. Parce que celui-là, tu l'as dû tenir un discours, et celui-là, tu l'as dû tenir un autre discours. Alors, si le bon Dieu, il prend ce risque, c'est qu'il pense que tu as les facettes qu'il faut pour. C'est bizarre, non? Quand votre femme, elle accouche en même temps que votre fille, ça fait bizarre, non? Un petit décalage dans la tête. Je suis quoi? Je suis grand-père, je suis papa, je suis quoi? Mais c'est quoi l'idée? C'est que le bon Dieu, il pense qu'il y a encore des facettes, il y a encore des facettes. Et si tu as encore de nouveaux élèves, c'est encore de nouvelles facettes. Et il y a de nouveaux défis, c'est encore des nouvelles facettes. Donc le bon Dieu, il t'aime, il veut que tu grandisses. Si toi, tu ne sens plus cette fraîcheur, si tu sens plus ce changement, ce que les goïms, ils appellent la routine, la perte de confiance, la perte de goût, tu n'as plus envie de t'investir dans tes choix. En vérité, pourquoi? Parce que tu as enlevé le pied. Tu as enlevé le pied du circuit. Tu n'es plus à l'intérieur de ton épreuve. Tu n'acceptes plus de te remettre à l'épreuve. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, à 55 ans, on leur a dit que s'ils continuent à fumer, ils allaient avoir un cancer. D'accord? Il a arrêté de fumer. Après, on a dit, il s'est mis à faire du sport. Maintenant, vous savez quel âge il a? 80 ans. Et tous les ans, il fait le marathon de New York. 80 ans, et croyez-moi, il n'y en a pas un dans la salle, peut-être un, qui peut courir comme lui, hein, parce qu'il court. Hein. Et tu crois qu'il est quoi? Il est sportif? Tu crois qu'il est, il est professeur de sport?
Oui,
c'est vrai. Mais non, donc tu crois qu'il est professeur de sport? Non, il est rave à Strasbourg. Il est rave. Il étudie 10 heures par jour, mais tous les matins, 20 km. C'est bizarre, non? Pourquoi? La volonté. C'est pourquoi il a arrêté de fumer? Parce qu'il a dit, pourquoi je vais pas arrêter? Pourquoi j'arrive pas à arrêter de fumer? Quand je suis dépendant de la cigarette, il a cassé la cigarette comme ça. Je dis, non, tu sais, un sevrage, un temps. Il dit, le gars, il dit, j'ai fait 20 ans de moussard, je suis pas capable d'arrêter la cigarette. La cigarette, elle me tient par le bout du nez. C'est moi qui tiens la cigarette, c'est la cigarette qui me tient. Il n'y a pas la cigarette. Vous comprenez cette logique ou non? C'est avec la force de la volonté. Et 80 ans, moi on était ensemble une fois dans un gala où il était invité, il y avait l'estrade. Maintenant, l'estrade, elle était haute. Donc, ils avaient mis des marches de l'autre côté. Lui, tu crois que... Hop, il a sauté. Tain, une gazelle. Et moi, j'arrivais pas. J'arrivais pas à monter. Et lui, il a sauté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la volonté qui porte la personne. Maintenant, si la volonté de quelqu'un a 60 ans, il peut se mettre à faire du footing. Tu crois? Ouais. Alors, si quelqu'un, maintenant, il se retrouve avec les quatre enfants de sa fille parce que elle est partie. Comment il va faire? Il va dire, je vais le mettre à la DAS. Il va dire, je vais m'occuper d'eux. Il va en français, il dit, il a retrouvé une nouvelle jeunesse. Non, ça veut dire que le bon Dieu lui a donné, il a révélé qu'il était capable à nouveau de redonner la tendresse d'une maman en tant que grand-maman. D'ailleurs, les enfants, ils l'appellent maman, parce que c'est la maman. Donc le bon Dieu, il pense que tu es encore une maman. Allez, vas-y, joue ton rôle de maman. Ça veut dire qu'il y a des facettes de toi qui vont se révéler à 70 ans dont tu as besoin. Et si c'est comme ça, on a dit, comment ça se fait que... C'est que Abraham, il a eu 10 épreuves. La première épreuve, c'était la paracha qu'on a lue, là, l'Ech Lecha. La 10e épreuve, c'est la Akeda. Donc la première épreuve, elle est au début de l'Ech Lecha. Et la dernière épreuve, elle est à la fin de Vayera. Donc dans ces deux parachutes, il y a les 10 épreuves d'Abraham. Maintenant, le Balatourim, il dit, pourquoi ça commence par Vayomer? Vayomer, Hachem et Abraham, l'Ech Lecha. Il lui a dit, l'Echlecha, Vayomer, c'est le langage avec lequel Hachem il a créé le monde. C'est Vayomer. Parce que, pourquoi? Parce qu'Hachem il a créé le monde par 10 paroles. Et Hachem, il a mis à l'épreuve Abraham par 10 épreuves. Maintenant, le visage d'Abraham Avinu, il est gravé dans le ciel, dit le Zohar. Maintenant, ça, c'est le Abraham qui peut devenir. Et le Abraham qu'il est, c'est celui qui est en bas. Et celui qui peut devenir, c'est celui qui est en haut. Donc maintenant, de la même manière qu'Hachem, il a créé le monde en 10 paroles, de la même manière, Hachem, il a donné l'occasion à Abraham de devenir Abraham en 10 étapes. C'est les 10 épreuves. Maintenant, quand c'est marqué Be'ibar'am, Hachem Elohim, Shamaim Va'aretz, ouais, lorsqu'Hachem a créé le ciel et la terre, dans Bereshit là-bas, les Chachamim disent Atikre Be'ibar'am et là Be'Abraham. Je ne comprends pas, mais il y a des milliards d'êtres humains qui vont naître. Des milliards, des milliards, des milliards d'êtres humains qui vont naître pendant les 6000 ans de la création. Et tu penses que le but de la création, c'est Abraham Avinu? C'est qu'Abraham Avinu, oui, il a fait une épreuve. Maintenant, chaque épreuve qu'il a fait, elle a donné un niveau, elle a grandi les choses, elle a fait éclairer les gens. Par exemple, il demande pourquoi. Il y a l'épreuve de la Brit Mila. On a demandé à Abraham Avinu de faire la Brit Mila. Maintenant, pourquoi Hachem n'a pas demandé à Abraham Avinu de faire la Brit Mila avant? Il faisait les 613 mitzvot, Abraham. Mais il n'a pas fait la Brit Mila. Il dit pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il passe l'épreuve pour être capable d'atteindre le niveau qui lui donne le droit de faire la Brit Mila. Ah, maintenant, puisque lui, il a attendu 100 ans pour faire la Brit Mila, pourquoi est-ce que nous, on peut faire la Brit Mila à 8 jours? Parce qu'Abraham, il nous a donné le mérite, on a hérité du mérite du travail qu'il a fourni. Donc nous, on a à la naissance le niveau que lui, il a mis 100 ans pour obtenir. Parce que l'Ech Lecha, c'est ça l'Ech Lecha. L'Ech, c'est 30 et 20, ça fait 50. L'Echa, c'est 30 et 20, ça fait 50. 50 et 50, ça fait 100. Donc l'Ech Lecha, c'est quoi? À partir de l'Ech Lecha, à partir de 100 ans, tu auras une descendance. À partir de 100 ans, ton nom, il va grandir. À partir de 100 ans. Donc ça veut dire quoi? Il y a 100 portes qui vont s'ouvrir, 100 portes de Shefa qui vont s'ouvrir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclenché quelque chose. Abraham, il a créé quelque chose, il a créé une dynamique. Mais nous, Rabotai, on est les Abraham de notre famille à nous. Moi, par exemple, j'ai la chance d'étudier la Torah. J'ai la chance d'enseigner la Torah. Mais moi, j'ai aucun doute que ma capacité à percevoir, à transmettre, elle vient de mon père et de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. J'ai aucun doute. Les gens disent, bon, quand même, tu t'es sacrifié, t'as étudié, tu t'es cassé la tête. Non. Oui, ils ont étudié là-bas, c'était difficile, en Algérie, au Maroc, ils ont étudié la pauvreté, ils ont étudié à Tafilalet là-bas, dans le bled. Ouais, il n'y avait rien. Il y avait juste mangé un petit peu de pain, un petit peu de trucs. Allez, vas-y, mon fils, assieds-toi, prends ta Gemara, prends par cœur. Nous, on a les Gemara dans laser, on a les CD, les DVD, les MP3, on a les sites internet, on a les nanos, les badauds, les tatos, les lalos. Et c'est difficile, hein, on n'a pas de temps, c'est difficile. Eux, il n'y avait rien, il y avait les chameaux et la Gemara. Ouais. Et ils ont appris une Kedusha, ils ont appris une puissance dans la Torah qui est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait en vérité? Ils sont mis en situation d'eux. Maintenant, nous, on peut profiter de ça. Maintenant, est-ce que nous, on va être les Avraham Avinu de nos enfants? Est-ce qu'on va être les Avraham Avinu de nos petits-enfants? C'est-à-dire que jamais, jamais un sacrifice, il est perdu. Un sacrifice, il n'est jamais perdu. T'as pris 10 minutes pour parler avec ta femme, c'est jamais perdu. T'as pris un quart d'heure pour parler avec ton fils, c'est jamais perdu. T'as passé un moment avec lui, c'est jamais perdu. T'as fait une Mishnah avec lui, c'est jamais perdu. Tu dis oui, mais à quoi ça sert? Une Mishnah, non. Non, ce que t'as fait, c'est pas perdu. Et lui, dans 10 ans, il te dira, papa, je me rappelle quand on a fait la Mishnah, papa, je me rappelle. C'est jamais perdu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est essentiel reste éternel. Tout ce qui est superficiel disparaît en fumée. Tu te rappelles de ce commentaire? Ça a mangé à midi? Ça m'a pas marqué. Eh ouais, c'est superficiel. Tu te rappelles de ce que tu t'es hier? Non plus. Ah. C'est pas normal. T'as pas survolé la Chine. Donc une personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Hachem, il a demandé à Abraham Avinu de faire un sacrifice. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il a donné? Il lui a donné les 10 étapes pour devenir Abraham. Et c'est ça les 10 paroles. Donc en vérité, chacun d'entre nous, il crée un monde. Il devient le Abraham Avinu de ce qu'il est capable de faire. Maintenant, pourquoi le dernier épreuve qu'Hachem il a donné, c'est un sacrifice? Le dernier épreuve, c'est un sacrifice. Ouais. Elle a dit la logique, c'est quoi? Parce que Hachem, il a demandé à Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a sacrifié en vérité? Vous savez que le sacrifice n'a pas eu lieu. Abraham, il n'est pas mort. Yitzhak n'est pas mort. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il lui a demandé de sacrifier? Il lui a demandé de mettre Yitzhak en situation de sacrifice. Il s'est mis Abraham lui-même en situation de sacrifice. C'est-à-dire qu'Hachem, il va nous demander de sacrifier. Quelqu'un, il fait étudier la Torah à son fils aujourd'hui. C'est un sacrifice. Quelqu'un, il prend 3 heures par jour pour étudier la Torah. C'est un sacrifice. Quelqu'un, il prend aujourd'hui, tu vas voir un gars, tu dis, écoutez, si on travaille moins de 16 heures par jour, on peut faire tourner sa boîte, c'est impossible. Donc quelqu'un aujourd'hui, en 2013, avec la crise, qui prend 3 heures par jour pour étudier la Gemara, c'est une akeda, il a fait une akeda. Oui. Quelqu'un maintenant, il est dans la rue, il y a des femmes mal habillées, il tourne la tête pour ne pas regarder, il enlève ses lunettes, il a fait akeda titzrak de la débauche des yeux. Quelqu'un, il a des gros problèmes avec une belle-sœur qui parle mal de lui, ou d'elle, et elle garde sa bouche de parler contre la belle-sœur, elle fait comme si elle n'a rien entendu, pour le shalom dans la famille, pour ne pas faire de la peine à la grand-mère, elle a fait une akeda de la bouche. Maintenant, d'où on va trouver cette force? Ouais. D'où on va trouver cette force depuis plus de 3500 ans de faire des sacrifices? Parce que la dernière épreuve, c'est un sacrifice. C'est pour ça qu'il y a Abraham Avinu. Ouais. C'est marqué que quand Hachem lui a dit stop, il lui a dit arrête. Il a dit, oulala. Il a dit stop, non? Ah oui. Quand Hachem lui a dit stop, il a dit ne touche pas l'enfant, ne lui fais rien. Abraham Avinu, c'est marqué là-bas. Ça, c'est marqué dans le pasouk. Al tishlach yadecha alana'ar ve alta asno meuma. N'envoie pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Regardez ce qu'il dit Rashi. Amarlo. Il dit lechinam batilekain. Est-ce que je suis venu pour rien? Maintenant, lui, il a installé son fils. Il l'a convaincu. Il l'a mis sur l'autel. Il l'a attaché. Il a sorti le couteau et la flamme. Il est prêt à lui couper la gorge. Au dernier moment, Dieu lui dit stop, ne fais rien. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit quoi? Alors, je suis venu pour rien? T'as déjà vu quelqu'un, il est survenu d'un accident de la route, il dit « Oh, dommage !» Pour une fois qu'il y avait un peu d'excitation, il est sauvé. Ouais. L'autre, on l'a sauvé du divorce. Il dit « Oh, moi qui comptais aller, pour une fois, je visite un tribunal. » Mais c'est sauvé du divorce, en bref. C'est bizarre, non? Alors, il dit comme ça. Regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? Les chinam batidekan. Abraham, il a dit « Est-ce que je suis venu pour rien ?» Regardez ce qu'il a dit. Il a dit « Et c'est bon, chabora, au moins je fais une blessure. Veotio mimeno, mais la dame, je sors un petit peu de sang. » Donc d'abord Hachem il lui a dit Altishlach Yadechaïdana. Après il lui a dit Alta Aslomeuma. Alta Aslomeuma, il dit le Midrash, Alta Aslomum, ne lui fais pas un défaut. Abotaï, la question elle est importante. Puisque maintenant Avraham Avinu, il a été sauvé de l'épreuve. Pourquoi il insiste pour faire quelque chose? Ça y est, c'est bon, c'est gagné. C'est fini. Écoutez bien ça. Avraham Avinu, ici, il sait que dans ce monde-ci, on est Olam Asiya. On est dans le monde de l'acte. D'accord? Dans le monde de l'acte, ce qui se perpétue, c'est pas les pensées, c'est les actions. Toi, tes pensées à toi, elles peuvent te faire grandir. Ces épreuves, elles se font grandir. Mais qu'est-ce que l'enfant, il va recevoir? Il va recevoir les actions. Qu'est-ce que les générations futures vont recevoir? Vont recevoir les actions. Maintenant, quelqu'un, il a fait déjà, je sais pas moi, 8500 pages, il a écrit sur l'importance des téphilines. Et il a fait 780 conférences sur l'importance des téphilines. Mais il a jamais vu les téphilines. Mais je te peux garantir que ses enfants ne mettront pas les téphilines. Maintenant, l'autre, il n'a jamais étudié les téphilines. Et il n'a jamais fait une conférence sur les téphilines. Il n'a pas écrit une lettre sur les téphilines. Mais tous les matins, il a mis ses téphilines. Les enfants, ils vont mettre les téphilines. Pourquoi? Parce qu'il a marqué l'espace. Il a marqué le temps avec l'action. Ça s'appelle Olam HaMaaseh. On est dans le monde de l'action. C'est pour ça que la Gemara pose la question, même dans la prière. Elle demande la prière, parce que Ikar Atfila Kavana. Le principal de la prière, c'est la Kavana. Alors la Gemara demande, mais quand même, quelle est l'action qu'il y a dans la Kavana? La Gemara dit, Rak se fatea naot, rien que ses lèvres, elles bougeaient. Pourquoi? Parce que le fait de créer un mouvement avec la bouche, c'est le minimum de l'action que tu peux faire. Il faut au moins une action. Je comprends même, tout l'intérêt de la prière, c'est la concentration. On s'en fiche qu'il n'y ait pas d'action. Non. C'est vrai, mais dans le monde de l'action, il faut une action. Alors minimum, il bouge la bouche, il bouge les lèvres. Donc c'est pareil dans tout. Comme quelqu'un dit, j'adore ma femme, écoute, amène des fleurs, sois positif, sois une lessive, fais-lui une caresse, fais-lui un bisou. Non, mais j'ai pas besoin, moi je l'adore, moi c'est dans mon cœur. Ah ben tu vas voir qu'elle va les trouver ailleurs. Il faut de l'action, c'est normal. Et des cadeaux, c'est comme les gens qui disent, ah tu sais chérie, je suis passé devant un truc, j'ai trouvé super. Je dis, tiens, je devrais l'acheter. Bon, finalement, je l'ai pas acheté. Elle dit, écoute, arrête de me dire, j'aurais pu, j'aurais dû, j'ai trouvé ça super, j'ai pensé que... Arrête de me dire, ça me coupe en deux. Ne me dis rien, sinon achète-le. Tu l'achètes. Il vaut mieux que tu te trompes. T'as acheté, tu t'es trompé. Moi, je connais pas du tout les goûts de ma femme, d'accord? Donc, quand je trouve un truc, j'achète. Alors après, elle me dit, elle me remercie d'avoir acheté. C'est très dur de... C'est une femme qui a des goûts difficiles. Mais elle est contente que j'ai fait l'effort. Après, je sais pas ce qu'elle va faire la poussière avec. Mais j'ai fait l'effort. Mais quand tu viens, tu lui dis, oh là, j'ai pensé à un truc, j'ai. Oh là là, j'ai. Pourquoi? Parce qu'on est béra la maman assez. Il faut l'action. D'accord? Comme toi, elle te fait des choses, elle te fait. C'est pas qu'elle dit l'intention qui compte et ça sent les sentiments sont là. Et les sentiments, ça nourrit pas. J'avais les sentiments de te faire les salades de Shabbat. Oui, sont les salades. J'avais l'intention. Va faire Borépri Adama sur un halon. Ouais. Donc c'est pareil. Il dit pourquoi? Parce qu'elle a besoin du concret. Maintenant, Avraham Avinu, au moment où il veut marquer la chose. Hachem, c'est pas la peine. On va t'envoyer le mouton à la place. On a envoyé le bélier à la place de Yitzhak. Mais même là, Avraham, il a discuté. Il a dit attention, tu m'envoies un bélier à la place. Et un bélier qui a été créé avant la création du monde. Je ne sais pas si vous voyez un peu le travail. Ouais. Il dit, je demande une chose. C'est que tout ce que je vais faire sur le bélier, ça soit considéré comme si je l'ai fait sur Yitzhak. D'accord? Maintenant, Hachem, dans l'histoire, il va nous faire des épreuves. Maintenant, des fois, l'épreuve, il n'a pas besoin de la faire à nous. Mais il a besoin que l'épreuve se fasse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un bélier. Comme des fois, des gens me disent, ah ben j'ai dit, écoutez, c'est pas possible, on est parti tous pour le mariage, et on s'est fait cambrioler.
On s'est fait
cambrioler. Ils ont volé les bijoux. Ouais. Il dit, on a été pour faire la Brit Mila, on a cassé la voiture. Et une simra, et une kavara. Et la kavara, c'est pour la simra. Au lieu que l'enfant il a déjà mis un problème de sang ou quoi, ben voilà, et c'est parti, M. Kapala dans la voiture, c'est pas grave. Là, ils ont pris les bijoux, c'est pas grave, t'as fait un mariage de malade, ou l'Ainara, il pouvait aller sur le Hatan et la Kala, il est parti sur les bijoux, ben, c'est pas grave, Hachem t'a donné, il a repris, comme tous les Tova. Mais il faut avoir un esprit de comprendre ça. Que quoi? Que des fois, le bon Dieu l'envoie un bélier. Ah, tu te plains qu'il envoie un bélier, des fois, il n'envoie pas de bélier. C'est Israël qui prend. On a vu hein, pendant la guerre, il y a 6 millions de Israël qui n'a pas eu de bélier. Alors que à chaque génération, grâce à Dieu, il y a des béliers. Là-bas, c'est tombé là-bas. Et nous, on est tranquille, bah, au Hachem, on les laisse entre eux. Là, ils sont en train d'offrir des corbanotes en Syrie, en Égypte. Il n'y a rien qu'ils offrent des corbanotes. Et nous, ils nous laissent tranquilles. Mais ça, c'est des corbanotes que nous, on aurait dû faire la guerre avec eux. Hachem, le bon Dieu, il est en train de faire. Des armes chimiques qu'il a préparées pendant 40 ans, des millions, avec un coup de pression, mais là, ils sont en train de les détruire. Et nous, on est tranquille, en train de manger la pizza à Tel Aviv. Alors, qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Et tranquille. Et l'autre là-bas, il dit, tu te rends compte les cheveux qu'il doit se faire? L'autre, il a dit, il a des millions de milliards d'euros qu'il a dépensé de dollars pour faire ses armes. Maintenant, il est obligé de les détruire. Donc, le bon Dieu lui a fait gaspiller l'argent. Et maintenant, il lui a fait détruire les armes. Et nous, on est tranquille. Donc là, c'est quoi? C'est Hachem, il envoie le bélier à la place de nous. Pourquoi? Parce que nous, on fait un autre sacrifice. Nous, on va dire, on va prier. Nous, on va s'asseoir. Nous, on va prendre sur nous l'étude de la Torah. Alors, le bon Dieu, il dit, bah, toi, t'as pris ça. Moi, je vais m'occuper de bien. Ah, toi, tu veux pas ça? Il faut que tu t'éduques à toi. Il faut que tu comprennes quoi? C'est que les gens qui sont malins, ils comprennent que la vie, en vérité, c'est quoi? C'est un effort à fournir. D'accord? Un effort. Moi, combien de fois je passe des heures et des heures? Ma femme, elle me dit, mais encore, t'es resté 3 heures au téléphone avec ce type. Et je dis, écoute, celui-là, il a arrêté la drogue. Je dis, ben, j'ai dit à chez moi, je passe 3 heures avec lui. Mais si, Chas v'Shalom, j'ai un de mes enfants qui a une tentation dans la drogue, je dis, moi, l'accaparé, je l'ai pris, ça y est, j'ai pris la ramba de la drogue, je l'ai pris 3 heures avec celui-là. Donc, c'est pas la peine de me voir avec mon fils. Vous avez compris comment ça marche? Donc, c'est à la limite, c'est du donnant-donnant. Pourquoi? Parce que je sais que je dois le faire. Parce que le bon Dieu me l'envoie et moi, je pose la question et je le fais. Alors, maintenant, quand moi, je le vis avec courage, et je le vis avec intelligence et je le vis avec amour, mais c'est normal, parce que j'accepte ça. Chacun, il est. On aime Am Israël, on aime aider, on aime faire ce qu'on a à faire, il n'y a pas de problème. Donc, en fin de compte, le caractère épreuve de l'épreuve, il a disparu quand je l'ai abordé avec cette intelligence. Et je vais dire pire encore. Même le malaise de l'épreuve au moment où tu vis l'épreuve. Ouais. C'est quoi ça? Parce que c'est marqué Ve'ata yadarti ki yare Elohim ata. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Après l'épreuve, Hachem il a dit Abraham Avinu, et maintenant je sais. Mais en vérité, Ve'ata c'est au présent, Ve'yadarti c'est au passé. Ouais, fallait marquer va Arshav, Verata, Aniodea, Yadarti. C'est quoi Yadarti? J'ai su. Et maintenant, j'ai su. Alors, à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'en vérité, il est venu seulement pour révéler un potentiel. Hachem, il savait déjà qu'il avait cette capacité. Mais Avraham Avinu ne l'avait pas encore exploité, ne l'avait pas encore réalisé. Donc maintenant, il est devenu la personne qu'il était censé être. C'est bien. Maintenant, pour le passage de l'un à l'autre, alors il dit une chose incroyable. Il dit, comment ça se fait qu'au moment où on passe une épreuve, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent, c'est difficile. Quand tu te vois un examen, t'as mal au ventre. t'as peur. Quand tu dois demander pardon, parce que t'as tort, c'est difficile, parce que tu te sens seul. Ouais, quand tu es dans la maladie, tu es seul avec la maladie, toi et ton diagnostic, tu te sens seul. Non, on est tout un groupe et toute une famille, je suis très soutenu, mais quand même, tu es seul devant la maladie. Donc c'est quoi l'idée? Alors il dit une chose incroyable. Il dit qu'un homme, au moment où il arrive devant une épreuve, Hachem, il le quitte au moment de l'épreuve. Avant l'épreuve, Hachem, il est avec toi. Après l'épreuve, Hachem, il est encore plus avec toi. Mais au moment de l'épreuve, il te quitte.
Pendant
l'épreuve. C'est pour ça qu'on a mal au ventre. C'est pour ça qu'on se sent mal à l'aise. C'est pour ça qu'on se sent seul. D'où est-ce qu'il apprend? Parce que c'est marqué dans le pasouk que quand il est Abraham Yitzhak, il est en train de marcher, alors c'est marqué Vayar et Tamakom Irachok. Il a vu l'endroit de loin. Et ils disent les Chachamim, Makom c'est quoi? C'est le nom d'Hachem. C'est un nom d'Hachem. Makom. Vayar et Tamakom Irachok. C'est-à-dire il a senti qu'Hachem, il était Rachok, il était loin de lui. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme quand tu viens, par exemple, tu as appris, tu as bien appris tes mathématiques. T'as bien pris ta Gemara. Maintenant, tu viens à l'examen. À l'examen, il y a quoi? Il y a la feuille, le stylo et toi. Toi, tu dis, mais je voudrais qu'il y ait la classe, je voudrais qu'il y ait l'ambiance de la classe, je voudrais qu'il y ait mes livres et mes cahiers, je voudrais qu'il y ait mes professeurs. Non, 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 non. Il y a la feuille, le stylo et toi. Maintenant, toi, tu as la connaissance. L'épreuve, c'est quoi? C'est l'examen. L'examen, c'est quoi? C'est pour faire sortir l'âme. Examen. C'est-à-dire, il va sortir ta neshama. C'est-à-dire, en français on appelle ça, on va vérifier le niveau de maturité que tu as atteint dans la connaissance. Ça ne suffit pas de connaître, il faut que tu saches appliquer. Quand tu as appliqué, ça veut dire que maintenant tu es devenu mature dans ce niveau de connaissance de mathématiques. Tu es devenu mature dans ce niveau de connaissance de l'alaha, puisque tu arrives à trancher l'alaha. Donc maintenant le problème c'est quoi? C'est que pour passer à cet état de maturité, écoutez bien, il faut qu'Hachem il te lâche. Pourquoi? Parce qu'il dit, hein, c'est pas qu'il s'appelle Akedat Israël justement. Il dit qu'à un moment, un homme est dans l'épreuve, il lui reste sa crainte de Dieu et la connaissance de la Torah qu'il a. Mais Hachem le quitte. Maintenant, quand lui, il va catalyser sa crainte et sa connaissance, en fait, il va devenir ce qu'il a appris. Maintenant, si à Dieu, il t'aide à ce moment-là, tu ne pourras pas changer, parce que c'est Dieu qui fait le travail à ta place. Donc, il te laisse tomber et tu grandis. Alors, je donne toujours l'exemple, c'est comme ton père, il veut t'apprendre à faire du vélo. Alors, je dis, mon fils, fais du vélo. Alors, il dit, papa, j'ai peur de tomber, je vais me faire mal. Si je tombe, je vais m'égratigner, je vais me casser le coude, je vais me truquer. Alors, il a peur. Alors, il dit, écoute, mon fils, voilà ce que je vais faire. Toi, tu pédales et moi, je te tiens. Et d'accord, il dit, d'accord, c'est comme ça, ça va. Alors, maintenant, l'enfant, il pédale. Ouais, alors, tu le tiens. Alors, tu tiens, tu mets une main, tu attrapes la selle, une main, tu mets sur l'épaule. Et tu cours à côté. Il dit, vas-y, pédale, 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 pédale. Pédale. Alors, il dit, pédale. Papa, tu me lâches pas, hein, papa, train de chaleur, attention, je vais tomber, je vais mourir. Hein, ouais. Après, tu dis, écoute, mon fils, j'enlève la main de l'épaule parce que c'est pas facile, mais je te tiens par derrière. Ah, tu me tiens. Puis à un moment, tu t'arrêtes. Et tu dis, oui, je te tiens, vas-y, je te tiens. Moi, oui, tu l'as lâché. Il apprend à faire du vélo. La seule manière de lui apprendre à faire du vélo, c'était de le lâcher. Maintenant, quand tu le lâches, il y a un sentiment de solitude, il y a un sentiment d'abandon. Mais d'un autre côté, c'est comme ça qu'il atteint la maturité. Et cette maturité, elle va faire qu'il va devenir un père. Lui-même. Tu veux ou non? Donc il était un enfant qui était assisté. Après, il devient quelqu'un qui pourra assister. Comme Abraham Avinu. Ouais. Maintenant, c'est quoi la capacité d'assister? C'est la maturité. Et la capacité d'être assisté, c'est d'être entre les mains d'Hachem. Maintenant, pour que toi, tu atteignes un niveau supérieur de maturité, il faut que le bon Dieu, au moment ou un autre, il te lâche. Comme toi, en tant que patron, tu dois prendre la décision. C'est ça le patron. Toi, en tant que politique, tu dois donner la direction. Toi, en tant que papa et maman, tu dois décider pour l'enfant. C'est comme ça. Alors le directeur, il dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors toi, tu dis, et vous, directeur, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mais c'est vous les parents. Quelle orientation vous voulez qu'on fasse? Qu'on voulait qu'on fasse avec cet enfant? Ah, mais c'est difficile. Ah, je vous laisse décider. Mais t'as pas compris. Si le bon Dieu t'a posé la question à toi, sinon l'enfant, il l'aurait donné à moi. Donc moi, j'ai une facette en tant que directeur. Toi, t'as une facette en tant que père. Toi, t'as une facette en tant que mère. Et la conjonction des trois, elle va donner une réalité pour l'enfant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est qu'on a passé une étape. On a changé une étape. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un accouchement. On a accouché d'une certaine personne. Elle est venue. Elle est arrivée. Il dit, et c'est ça le principe de l'épreuve. C'est-à-dire que la personne, elle va dépasser le malaise. Maintenant, celui qui est malin, ouais, il prépare les qualités. Quand tu développes ta imouna, quand tu développes ta crainte de Dieu, quand tu apprends la Torah, quand tu développes ta confiance en soi, quand toi tu es plein d'amour, quand tu aimes la vie, quand il va arriver ce malaise, le malaise qui de toute façon existera, mais il va vite passer, parce qu'il est perdu dans une masse de positivisme. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas dans ta tête. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois en rien. Tu te saoules la tête avec du whisky et avec des bêtises et des émissions de télé. Quand il va arriver l'épreuve, il y aura le malaise. Mais le malaise, comme il n'aura aucun support psychologique et aucun support de spiritualité, il va te détruire. C'est pour ça que tu vois les gens, une épreuve, une déception sentimentale, 50 dépressions. Une déception de business, 4 ans de dépression. 4 ans ! Oui, mais tu sais ce que c'est de se sentir seul, de se sentir abandonné, et qu'on te demande de se décider. Je ne comprends pas, mais maman, c'est, on t'a demandé de décider. Mais tu avais tout ce qu'il fallait pour décider. Non, j'étais seul, mais c'est normal que tu sois seul. Mais pourquoi tu le dis pas, cette solitude ? Parce que tu n'as pas préparé. Alors, il y a une partie qui nous incombe à nous, en tant que parents, de donner à l'enfant cet amour, et cette confiance, et cette connaissance. Après lui, après il est en face de sa réalité. Ouais. Mais en réalité, on a déjà fait 90% du travail. Après le passage, c'est rien du tout. C'est rien. Je t'ai dit, mets la main dans l'eau et attrape. Ah, mais je vais mouiller. Vas-y, mets la main. Ah, finalement, c'est rien du tout. Ouais, je t'ai dit, éteins-la. C'est comme si vous voulez éteindre une bougie avec le doigt. C'est difficile, je vais brûler. Alors tu mouilles un peu, tu fais tac. On va te faire une piqûre. Ah, mais ça fait mal, j'ai peur de la piqûre. J'ai jamais supporté la piqûre. Moi, j'ai fait la piqûre. Qu'est-ce que tu veux que le bon Dieu t'envoie une maladie où je vais faire 30 piqûres par jour? Ça, tu dis au docteur, écoutez, combien je vais souffrir? Un centième de seconde. Le temps qu'on va être. Vous savez, des gens qui disent, moi, je vois les gens quand je vais faire une prise de sang. Respirez à fond, détendez-vous, ça va aller, c'est rien du tout. Je dis, mais c'est rien. C'est rien du tout, une piqûre. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Ouais, c'est rien, hein? Oui, non? Mais non. J'ai fait une thérapie post-traumatique pour la piqûre. Alors pour l'accouchement, ça fait 10 ans de thérapie.
Ouais, c'est une piqûre. Ouais.
Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, si elle est bien préparée, si elle est en situation de travail, si elle est dans un esprit positif, ouais, après qu'elle accepte et elle vit l'épreuve, enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a raccourci le temps de douleur. Elle a raccourci la nature et l'intensité de la difficulté. Donc ça devient une étape normale. Une étape. Comme quand tu montes les escaliers. Vous savez que les escaliers, c'est un phénomène bizarre. Les escaliers, il y a un côté raide et un côté plat. Tous les escaliers, c'est comme ça. S'il n'y a qu'un côté raide, ça s'appelle une falaise. S'il y a un côté plat, ça s'appelle une plaine. Donc, la seule manière de grandir, c'est de passer par une série de côtés raides, côté plat. Côté raide, côté plat. Côté raide, côté plat. Côté raide, c'est l'effort que tu fournis. Côté plat, c'est les satisfactions d'avoir atteint un niveau. Maintenant, le bon Dieu, il est gentil. Après, c'est quoi l'intelligence? C'est de faire une taille de marche qui est supportable. Assez grand pour que tu montes un peu, et assez plat pour que tu puisses te reposer. Maintenant, celui qui est malin, ouais, quand il a monté une trentaine de marches, il se retourne et dit, wow, t'as vu tout le chemin que j'ai fait? Il est content. Et s'il va dire, mais où j'ai trouvé la force de monter jusque-là? Alors, regarde la chorma. Toi, tu crois que c'est parce que tu avais un projet de monter. Mais le fait d'avoir monté, ça t'a musclé les mollets. Donc la musculation que tu as fait en montant les escaliers t'a permis de continuer à monter les escaliers. Donc ça veut dire que plus quelqu'un il va assumer ses épreuves, plus il aura la force d'assumer les épreuves. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils redistribuent les épreuves. Ça c'est à cause de toi. Toi maman c'est toi qui dois assumer. Toi papa c'est toi qui dois faire ça. Toi c'est à cause des professeurs. Ça c'est à cause de l'école. Ça c'est au bon Dieu, c'est au bon Dieu. Alors comme toi tu ne muscles pas tes muscles d'épreuves, donc tu es en faiblesse d'épreuves. Donc chaque épreuve, elle devient un rôle-âme. Donc si tu acceptes de faire des épreuves, d'assumer, eh bien il faut se lever le matin, et il faut mettre les téphilines, et il faut manger cachère, et il faut sourire aux gens, et il faut s'investir, et il faut dire la vérité, et il faut se remettre en cause, et il faut voir sa part d'orgueil, et il faut voir sa part d'amour propre, et il faut voir sa lourdeur, et il faut avancer, et il faut faire des actes de générosité, et il faut s'impliquer dans la communauté, et il faut prendre du temps pour étudier la Torah, et il faut. Alors les gens, ils en ont mal, il n'y a que des devoirs dans la vie. Alors moi je te donne un secret. Quand tu fais ce que tu dois faire, la vie elle est facile. Quand tu fais ce que tu veux faire, la vie elle est dure. Parce que je n'ai pas envie. C'est quoi j'ai plus envie? Alors la vie elle est lourde. Alors après tu es obligé de prendre des médicaments pour faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais si tu t'es dit dans la tête, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je dois. Mais la vie elle est facile. Et si quelqu'un va dire alors qu'on est d'unité des soldats? Non, on appelle ça des adultes. Maintenant, la satisfaction d'être, elle est chez les adultes. Et la satisfaction d'avoir, elle est chez les enfants. Maintenant, la société, elle fabrique des enfants. Parce que les enfants consomment sans réfléchir. Mais la Torah, elle fabrique des adultes. Il faut juste décider si tu veux être un consommateur ou si tu veux être un être mature. Donc la maturité, elle vient de la satisfaction d'être. Et la
consommation, elle vient de la satisfaction d'avoir.
Donc décide si tu veux être un consommateur. Maintenant, si tu es un consommateur, aujourd'hui tu consommes des produits, demain tu consommes des personnes, après tu te consommes toi-même, tu t'auto-détruis pour tirer profit des plaisirs de la vie. Et en fin de compte, qu'est-ce qui reste derrière ? Alors que si toi, tu penses que tu es là pour être, donc au fur et à mesure que tu as la capacité d'être, le bon Dieu, il va même te donner la capacité de faire être. Comme Dieu, il est et il fait être. Toi aussi, tu vas faire être. Alors, il va donner des enfants, tu vas les faire être. Tu vas épanouir ta femme, tu vas épanouir ton mari. Après, tu vas épanouir tes élèves. Après, tu vas épanouir ta communauté. Après, peut-être, tu vas épanouir le monde, va savoir quel va être ton rôle. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait simplement ? On a juste décapsulé des potentiels. Encore une facette, encore une facette, encore une facette, encore une facette. Pour que tout à chacun, il ait ce rôle extraordinaire. Alors, comme on a dit tout à l'heure, qu'on a cette grande perte du Rav Obadiah, que c'est un diamant. Bon, moi je parle comme ça, mais je ne suis pas à la hauteur. Mais d'imaginer d'abord comment on a pu avoir le mérite d'avoir un tzaddik pareil dans cette génération, et après de voir comment est-ce qu'on peut combler. Parce qu'un ami à moi, il était là-bas. Vous savez, ils ont dit qu'il y avait 850 000 personnes, mais c'est d'après la police. C'est qu'il y avait plus de 850 000. C'est la première fois en Israël qu'il y a une tellement grande dévaya. Et mon copain, il était là-bas, il m'a dit Ria, il y avait des chassidim, il y avait des sfaradim, il y avait des ashkenazim, il y avait des kipotes srugot, les côtés. Il m'a dit il y avait des gens sans kippa, il y avait des gens tatoués, et tout le monde pleurait. Ça, c'est un symbole énorme. Parce qu'en vérité, la Torah qui est pure, la Torah qui est vraie, la Torah qui n'est pas entachée, elle réunit tout le monde. Tout le monde. Faut voir comment le Rav Eliashiv, il faisait le kavod à Rav Obadiah. Ouais. Comment le Rav de Belz, il pleurait. Le Rav de Belz, il pleurait pour Rav Obadiah. Ça veut dire quoi ? Des gens, ils ont compris la force de l'étude de la Torah. Ils ont compris la force de l'amour du Ram Israël, qu'ils pouvaient s'occuper de chacun. Moi, un copain à moi, il a raconté cette histoire sur Internet. Que son fils, quand il a trouvé la ficomane le soir de Pessah, il a dit à mon fils, alors qu'est-ce que tu veux comme récompense ? Parce qu'il a trouvé la ficomane. Ouais, on fait chercher la ficomane aux enfants, il a trouvé. Il a dit, qu'est-ce que tu veux ? Il a dit, je mets une bracha de Rav Obadiah. Alors son père, il a dit, écoute, mon fils, c'est pas évident, il est déjà âgé, il n'y a pas très longtemps. Alors il dit, bon, tu sais quoi, on va aller. Souvent le matin, il fait les sandak dans les brit milot. Alors on va s'approcher, on va lui demander une bracha. Et lui, comme les gens étaient trop sur lui, ils mettaient des bancs autour de lui pour pas qu'on s'approche trop, parce qu'il est fatigué, il est âgé. Donc ils n'ont pas réussi à demander la bracha. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu le chaman. Alors le Rav Obadiah, à la fin, il fait un Miché Berach pour tout le monde. On ne peut pas recevoir les gens à part un, enfin Miché Berach pour tout le monde. Alors il a dit à son fils, voilà mon fils, tu as eu le Miché Berach qu'il a fait Rav Obadiah pour tout le monde. Alors enfin il a dit, non, moi je veux une bracha pour moi. Et maintenant il avait 9 ans l'enfant. Alors il a attrapé le chaman, il a dit, voilà mon fils, et toi, il a dit, monsieur, je peux rien faire. Ah non, un des responsables, il a dit, moi je peux rien faire. Alors il est rentré chez lui, il est dans son bureau. Alors, le grand frère de ce gosse de 9 ans, il a été là-bas, il s'est mis à côté de la porte. Quand un des autres chamaches est sorti, il a attrapé, il a dit, Rav, je vais vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà mon frère, il a dit, qu'est-ce que je fasse ? Le Rav, il est fatigué. Donc. Mais comme il a laissé la porte ouverte, Rav Obadiah, il était à l'intérieur, il a vu que la porte est ouverte, je ne comprends pas. Il a appelé, il a dit, qu'est-ce qui se passe ? Il a dit, voilà, il y a un enfant de 9 ans, il a trouvé la fille commune, il a demandé une bracha. Il a dit, quoi ? Mais il fait rentrer, bien sûr, il rentre tout de suite que je lui fais la bracha. Il est fatigué, ouais. Il est âgé, mais il y a un petit enfant d'Israël qui veut une bracha dans sa vie, on lui donne la bracha. Il a fait une bracha. Il a raconté là-bas, hein. C'est un ami à moi, on a fait des séminaires et tout ça ensemble. Il m'a dit, sache que cet enfant-là, il avait des très très gros problèmes. Des problèmes de lecture, des problèmes de concentration, des problèmes de dyslexie, des problèmes pour retenir dans l'étude de la Torah. Il a dit du jour au lendemain. Il a dit, je ne sais pas si c'est grâce à la bracha du Rav, ou c'est parce que l'enfant, il a été tellement impressionné que ça lui donnait envie. C'est-à-dire, même lui, il essaye d'être objectif. Ouais. Il a dit, mais on a vu. Il a dit, mais comment quelqu'un qui a son âge, qui connaît toute la Torah entière, qui ne perd même pas 5 minutes pour aller se balader, ouais, il va prendre le temps pour faire une bracha pour un enfant. C'est, on doit prendre sur nous, je pense, pour essayer de combler un petit peu, parce que c'est quoi la perte d'un tzaddik ? Comme la perte de n'importe quel juif qui part dans le monde. Il avait un rôle à jouer, donc ce rôle, il est redistribué par 14 millions de personnes. C'est ça l'absence, c'est ça combler une absence. Comme ton père, il n'est pas là, alors toi, tu dois jouer un rôle auprès de ta mère, tu dois être proche d'elle. Tu dois jouer un rôle auprès de tes enfants parce que le grand-père n'est pas là. Donc de la même manière, quand un tzaddik comme ça, il part, étant donné que c'est un spécialiste d'Alakha, donc chacun, il doit prendre sur lui d'apprendre les Alakhot. Il faut apprendre les Alakhot. Ouais, plus religieux, moins religieux. Prends une Alakha par jour. Tu prends, il y a des livres en français, des livres en italien, des livres en anglais. Il y a tout ce que tu veux aujourd'hui. Il y a des sites internet, il y a des... Il y a des, il y a, 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 il y pour essayer, que peut-être s'il y a des quelques centaines de milliers qui prennent ça, peut-être pour essayer de combler 10% de l'absence d'un Dayan comme ça, ouais. Et à part ça, d'avoir cet amour de chacun d'Israël. Chacun, c'est-à-dire plus religieux, moins religieux, italien, libanais, libyen, badin, dadin. Non, Hachem, il aime tout le monde, il arrive de tout le monde. On est tous dans l'épreuve, on est tous ensemble. Donc d'avoir cet amour-là, et peut-être qu'avec cet amour de chacun, pour chacun du Ham Israël, et cette étude de la Torah, bien sûr, moi j'ai dit de la Torah, mais celui qui a la chance de pouvoir étudier, qui rajoute plus, s'il peut rajouter plus pour essayer de combler, qui est du Hamal, c'est-à-dire qui est des efforts, c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté jour et nuit. Moi j'ai parlé avec un médecin, un très grand médecin, il a raconté que lui, il opérait les grands, ouais, quand Sharon il était malade, quand l'autre il était malade. Il a dit des grands ministres, des grands chercheurs, des grands mathématiciens. Il a dit c'est incroyable. Il a dit on fait des opérations de 5 heures, de 6 heures, de 7 heures. Il a dit même Sharon, quand il avait suivi des opérations, ou des ministres, ou des trucs, il a dit quand ils sortent en opération, pendant au moins 4 heures, ils sont dans les vapes complètement. Ils sont... Tu peux rien faire avec eux. Il a dit Rav Obadia, Rav Eliashiv, le Stepeler, tu sortais d'opération. À la seconde, lui sort d'opération, en train d'écrire les Chidushim. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est qu'à 4 minutes, il est dans le coma, il se réveille, première chose, le stylo. Encore une fois, on va répondre à cette question, comme ça. Il a dit, mais c'est pas des cerveaux, ça. C'est pas normal. Le gars, il était dans les choux il y a une minute. Vous avez compris, non ? C'est tellement, il y a un mal à Torah, tellement il y a un effort dans l'étude de la Torah, que c'est évident. Et c'est ça son travail, il le fait très bien. Donc si on peut essayer de participer pour que Am Yisrael Bezrat Hashem, il ait le sroute et la protection de tous les tzadik, Bachamay. Donc, on fait vite. La prochaine date, le 10 novembre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. On a proposé, est-ce que vous êtes intéressé de commencer plus tôt dans l'après-midi? Parce que moi, en vérité, j'arrive à 1h, 1h30. Si c'est plus pratique pour vous de faire plus tôt, levez la main ceux qui voudraient qu'on commence 1 heure avant. C'est-à-dire 5h. 17h. Comme ça, vous avez la soirée de livre. Si vous allez en boîte ou à un chiot.
En boîte
de limouille.
La boîte, il y a toujours le temps.
Est-ce que 17h, levez la main que je vois beaucoup la main.
Il n'y a pas beaucoup de mains.
C'est pas évident, moi je vois une majorité.
Moi, c'est pareil.
Moi, c'est pareil.
Pour ceux qui c'est pareil, ils peuvent venir à 17h. Ceux qui c'est pareil. 17h le prochain.
Non.
Oula.
Le prochain, c'est les 18h parce qu'il y a quelque chose avant.
Ah, il y a quelque chose avant.
Après.
À celui d'après. En décembre, alors. D'accord.
On va demander deux questions. Une, c'est un jeu. Et ceux qui disent qu'ils veulent plus tôt, alors on fait bien.